Bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour les petits amis. Hop, comment ça va? Comment ça va bien en ce moment? Il faut absolument que je répare ça un jour. Wesh alors, wesh alors, wesh alors. Bonjour, bienvenue. Installez-vous confortablement. Nous allons suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui commence dans une heure. Hop là, ça va bien parce que c'est bientôt Frames et bientôt Backseat aux Frames. Oui, absolument, la semaine prochaine, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, nous serons au festival Frames qui se tient à Avignon. Le festival Frames est un festival de création sur Internet, notamment de vidéastes. Et nous y ferons une émission Backseat qui aura lieu le jeudi 9, donc en direct d'Avignon. Et voilà, ça va être chouette. Ça va être très très chouette. Merci Vélania, merci Vélania. Merci beaucoup. Début de maladie. Ah ! Mais c'est la pause déj, donc ça passe. Tant mieux. Tant mieux. Courage pour la maladance. Est-ce qu'il y aura le député du coin comme invité ? Non. On est en train d'organiser ça. On est en train d'organiser notre émission Backseat. On va faire une émission Backseat spéciale, évidemment, puisqu'on sera à Frames. On va parler de création sur Internet, je suppose. Donc voilà. Hier, pour celles et ceux qui étaient là, nous avons regardé ensemble le discours du futur président de la République, peut-être, Dominique de Villepin, discours qu'il a prononcé vendredi dernier à la Sorbonne, discours de pré-campagne électorale, on va dire, de pré-campagne présidentielle, on va dire ça comme ça. Discours très attendu, non, c'est faux. Enfin, 13 jours, j'en sais rien, peut-être qu'il attendait. Hein. Peut-être qu'il y a une attente, peut-être que vous attendez. Dominique de Villepin. En tout cas, il ne sera pas à la séance des questions au gouvernement aujourd'hui. C'est dommage, on pourrait faire des questions à Dominique de Villepin. Sur le prix de l'essence, par exemple. Qu'est-ce qu'il propose, Dominique de Villepin, sur le prix de l'essence? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est trop bien, si c'est Avignon, je suis pas loin, je peux venir possiblement. Ah ouais, grave, ramène-toi. C'est sympa de revoir des archives de 2006, il faudrait faire plus ce genre de stream. J'ai dévoré Résister de Salomé Sacquet hier, je suis pas une grosse lectrice. Ah mais ça se lit bien Résister. Résister. Ça se lit bien. Regarde, il est derrière moi. Il est dans mon décor. Résister de Salomé Sacquet de la Comté. Un second tour Villepin PS serait la meilleure chose pour la République. On se ferait chier. oui, peut-être, mais bon, on serait... oui. Ça fait un peu retour aux années Chirac. Hein. Je comprends pas les sondages qui mettent Édouard Philippe devant. C'est, genre, c'est Macron 2, mais la popularité de Macron en baisse. Mais parce qu'il y a des gens qui soutiennent. Il y a des gens qui soutiennent Édouard Philippe, hein. Édouard Philippe est peut-être en train de réussir à reconstituer un électorat autour de l'électorat d'Emmanuel Macron. Les électeurs macronistes ne vont peut-être pas rentrer au bercail. Ils vont peut-être rester macronistes. Mais oui, j'ai vu que les derniers sondages mettaient Édouard Philippe au second tour de l'élection présidentielle. Attention, quand même. Parce que on a l'habitude dans ce pays d'avoir des campagnes présidentielles qui changent les choses. On a déjà vu des sondages un an avant l'élection. Évidemment, un sondage n'est pas une prédiction, vous le savez, ça n'a jamais été une prédiction, ça ne sert pas à prédire l'avenir. Mais les dynamiques de campagne existent. Voilà, les dynamiques de campagne existent. Zemmour était à 20%. Oui, Zemmour a été à 20%. Zemmour, il y a eu une hype Éric Zemmour à l'extrême droite. Qui a duré quelques semaines, quelques mois. Et puis après, la campagne présidentielle de Zemmour, ça s'est étiolé. Ça s'est considérablement étiolé. Il y a eu du vote utile à l'extrême droite en faveur de Marine Le Pen. Alain Juppé, en 2017, il était bien placé. Bon, bah finalement non. Et encore, je dis 2017, mais c'était pas 2020, 2022 ? Plutôt que les sondages, il vaut mieux regarder Polymarket. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Polymarket, c'est des paris. Pour le coup, c'est des paris sur l'avenir. C'est pas des intentions de vote. Juppé 2017. Ouais, Juppé 2017. Juppé était donné très très haut dans les sondages en 2017. Puis il a perdu la primaire. C'est François Fillon qui a gagné la primaire. Et François Fillon a fait un assez bon score, hein, d'ailleurs. Il a fait près de 20% des voix au premier tour en 2017. L'édito de Cohen sur France Inter ce matin parle de ça. Ouais, je sais, je l'ai écouté, l'édito de Patrick Cohen. Patrick Cohen, il a déterré des sondages un an avant l'élection pour les précédentes élections présidentielles. Et oui, effectivement, tu vois que. Je veux dire, c'est pas surprenant. Une campagne présidentielle, c'est une campagne. Faut-il accorder une vraie crédibilité au sondage pour la présidentielle? Un sondage n'est pas une prédiction de l'avenir. Je répète, un sondage n'est pas une prédiction de l'avenir. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été présenté comme ça. Ça ne sert pas à ça. Il y a des gens qui y voient des prédictions. Mais il ne faut pas y voir des prédictions. Ça te donne la température à l'instant T, avec des marges d'erreur, de l'opinion publique. C'est tout ce que ça te donne. Les sondages, c'est utile pour voir les dynamiques. Ça, c'est intéressant de voir que dans les sondages, il y a des campagnes qui prennent, il y a des campagnes qui reculent. C'est des indications qui sont intéressantes. Mais rien de tout ça ne te donne de résultat final. Merci, Baptorn. Merci, Sinistra. Merci. On parle toujours de campagne présidentielle, mais j'ai de ville présidentielle, cette exclusion des citadins est scandaleuse. Putain, je viens de comprendre. Je l'ai. Merci, Sir Micha. Merci beaucoup. Philippe, il a pour lui d'être relativement apprécié par l'électorat de droite et pas rejeté par l'électorat de gauche, chose que je n'arrive pas à comprendre. Genre, les gens de gauche voteraient plus facilement pour lui que pour Retailleau après ce qu'il a fait pendant les Gilets jaunes. Bah ouais, mais ça dépend ce que tu appelles l'électorat de gauche. Après, ça dépend si tu parles d'un vote d'adhésion au premier tour ou d'un vote barrage au second tour. C'est pas la même chose. En revanche, est-ce que ça influence les dynamiques du moment, par exemple, dans les partis au moment des primaires? Oui, les sondages ont une influence sur l'électorat, puisque les électeurs se basent en partie, mais pas seulement, sur les sondages pour se décider, notamment dans ce qu'on appelle le vote utile. Le vote utile étant un vote qui consiste à voter pour une personne qui est dans les sondages, qui dans les sondages semble être plus à même de, par exemple, se qualifier au second tour. Il y a une part de stratégie dans le comportement électoral. Ça a toujours été le cas. Merci Titi Bob. Me suis intéressé à la politique grâce à toi, merci. De rien. Maintenant, ma fille mange les cartes UDI de mamie. Mange la carte UDI. Oh, c'est trop mignon. Imagine le bébé en train de croquer comme ça dans le plastique. On voterait plus facilement pour lui que pour Retailleau, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Retailleau, c'est le dernier pour qui je vote, même Bardella. Après même Bardella. Oui, mais encore une fois, non, mais c'est toujours pareil. C'est un peu la discussion qu'on avait hier au sujet de Villepin. C'est pas parce que dans l'absolu, t'as pas une opinion fondamentalement négative sur le bonhomme ou sur ses idées qui sont modérées et que ça peut. Ouais, bon, d'accord. C'est pas pour autant que tu vas voter pour lui au premier tour. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que c'est être un candidat sympathique. Ça fait pas forcément un bon candidat. Ça peut être pas mal pour créer un rassemblement. Mais tu peux avoir des candidats pour lesquels l'opinion publique a une opinion globalement favorable, mais juste personne ne vote pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres candidats qui proposent des trucs qui sont plus proches de ce que veulent les gens. J'ai commencé à rattraper ton live avec le discours de Dominique de Villepin. C'est pas si mal le début de son discours. Mais c'est pas mauvais. Après, c'est une question de goût. Hein. Vous pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais Dominique de Villepin n'est pas un mauvais orateur. Dominique de Villepin, dans l'exercice du discours, il n'est pas difficile à écouter. C'est joli, c'est une belle langue française bien maîtrisée. Il y a des références, c'est assez gracieux dans l'argumentation. C'est bien référencé, c'est bon, voilà. Mais encore une fois, un beau parleur ne fait pas un bon candidat à la présidentielle. Il en faut plus. Philippe va target les retraités en promettant de ne pas baisser leur pension et en reculant l'âge de la retraite. Il a beaucoup de retraités, il vote beaucoup, à ne pas sous-estimer. Oui, peut-être. Peut-être. Alors après, bon, quand tu dis que Philippe va draguer les vieux en disant qu'il ne veut pas baisser leur pension, personne ne veut baisser les pensions des vieux. Hein. Aucun responsable politique dans ce pays ne propose la baisse des pensions de retraite. Pas du tout. Donc c'est pas spécifique à Édouard Philippe. Ce serait dommageable politiquement vu la réalité démographique du pays. Oui, ce serait dommageable politiquement et ce serait injuste socialement. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse de baisser les retraites des vieux. Ils ont cotisé, hein. Voilà, c'est tout. D'un point de vue de justice sociale, c'est une mesure qui est dure à prendre. C'est pour ça qu'on joue plutôt sur l'âge légal de départ ou sur la durée de cotisation ou sur le montant des cotisations. Mais bon, le montant des cotisations, les gouvernements sont pas trop trop chauds pour les augmenter parce que le coût du travail est déjà assez important en France, quoi. Donc évidemment, c'est des problématiques qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et bon, on va pas refaire le débat sur les retraites. Hein, je veux dire, vous connaissez cette chaîne, on en a déjà parlé un nombre de fois incalculable. C'est compliqué. C'est compliqué, le dossier des retraites, c'est un dossier sensible, c'est un dossier touchy. Et à la fin, la plupart des gouvernements jouent sur l'âge légal, quoi. Merci, Tinilua, merci pour ton sub, bienvenue. C'est avant tout un système de solidarité. On a demandé beaucoup d'efforts aux actifs. Il est temps aussi d'en demander aux retraités. Si tu veux. Mais bon, vu le taux de pauvreté des vieux... oui, moi, c'est toujours pareil. Oui. Autant baisser les salaires aussi à ce niveau-là. Demander un effort à tout le monde. Bon. Le taux de pauvreté des vieux est plus faible que celui des actifs. Ah bon, non, mais appauvrissons les vieux alors. Non, mais vous avez raison. C'est la bonne solution pour lutter contre la pauvreté. Augmentons le taux de pauvreté des vieux pour rétablir la justice. Comme disait Coluche, plus de pauvres, tout le monde riche. Après réflexion, plus de riches, tout le monde pauvre. Tous les retraités n'ont pas les mêmes retraites. Et par ailleurs, tous les retraités n'ont pas les mêmes retraites. T'as les assurances retraites complémentaires aussi, qui viennent s'ajouter dans le calcul des pensions. Et puis après, ça dépend des retraités, mais tu peux avoir des revenus passifs aussi. Un retraité, ça reste un gars qui a été actif et qui a soutenu ses propres vieux, après à méditer sur comment tu veux être traité une fois vieux. Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de l'équation. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, en ce début de campagne présidentielle, ce début timide de campagne présidentielle, Édouard Philippe a l'air d'avoir les faveurs d'une partie de l'électorat notamment macronistes, peut-être aussi une partie de l'électorat de droite qui est insatisfait de la trajectoire qui est prise par Bruno Retailleau. C'est à ne pas négliger. Un électorat de droite modéré, en tout cas plus modéré que Retailleau et qui n'apprécie pas beaucoup la course à l'échalote avec l'extrême droite. À voir si ça tient dans le temps. Et comme on l'a dit hier, à voir si Dominique de Villepin peut venir bousculer ce jeu de quilles avec une candidature qui viendrait concurrencer celle d'Édouard Philippe. Il se marche pas sur les pieds, Attal et Philippe. Si, mais pour l'instant, Gabriel Attal n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on a une vraie raison de ne jamais remettre en cause, ne serait-ce qu'une partie des milliards qu'on envoie aux entreprises ? Le soutien à l'activité économique ? Notamment pour les entreprises les plus fragiles ou dans les secteurs stratégiques. Pas envie de mettre un coup de canif dans l'investissement. Attal, il n'avait pas lancé son mouvement pour la présidentielle ? Non. Ben non, il n'a pas besoin, Gabriel Attal, il est président de Renaissance. C'est bon, il a un parti. Hein. Enfin, c'est le parti macroniste, sachant que Gabriel Attal et Emmanuel Macron s'entendent pas très bien. Est-ce que Emmanuel Macron va accorder son soutien à Gabriel Attal? Et si oui, est-ce que ce sera un baiser de la mort? Heureusement qu'il y a eu les investissements de Macron envers les entreprises pendant le Covid. Ah bah le quoi qu'il en coûte, ça a sauvé l'économie, oui, ça c'est sûr. Ça c'est indéniable. Sur le prix des loyers, sur le prix de l'économie, sur le prix de l'énergie, le soutien au chômage partiel. Non, ce que disait Fabien Gay, le sénateur Fabien Gay, dans son rapport sénatorial, c'était que les aides aux entreprises devaient faire l'objet d'un ciblage et surtout d'une mesure de l'efficacité. Le problème, ce n'est pas le principe que des entreprises soient aidées. Le gouvernement aide des entreprises tous les jours. Le problème, c'est quelles entreprises, sur quels critères et avec quelle efficacité du soutien. Est-ce que ça sert ? Est-ce que c'est d'intérêt général de soutenir des entreprises qui font des jeux vidéo ? Hein ? Est-ce que le jeu vidéo français, c'est vraiment un truc qu'il faut développer ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que Expédition 33, c'est sympa, mais est-ce qu'on ne peut pas les laisser crever, ces mecs-là ? Est-ce que ce ne serait pas mieux, finalement, qu'on les laisse se démerder et ils feront jamais le poids avec les géants américains ? Voilà. Non, mais ça peut être... Voilà, donc le crédit d'impôt aux jeux vidéo, le CIJV, qui est un dispositif d'aide fiscale, hein, c'est une niche fiscale, qui soutient l'industrie du jeu vidéo. Spoiler, on crève même avec toutes les aides. Ouais, bien sûr. Regardez, quand le gouvernement essaye de se démener pour trouver un repreneur pour un site qui est en train de fermer, vous le voyez aux questions au gouvernement, les députés qui prennent le micro pour dire au gouvernement « Dans ma circonscription, il y a une usine qui est en train de fermer, il y a 1000 emplois qui sont menacés, il faut que le gouvernement fasse quelque chose. » C'est une aide aux entreprises qui est demandée. C'est un soutien à l'investissement, trouver un repreneur... Trouver un dispositif d'incitation pour qu'une activité économique soit maintenue, pour garantir les emplois. Petite question pour Backseat à Avignon, si je peux venir et que j'ai le soutien Club Backseat, comment ça se passe sur les places et les infos? Est-ce qu'on reçoit un mail avant? Je peux pas te répondre parce que j'ai pas le détail. Je t'invite. Merci Rom Rom SAV, merci beaucoup. Je t'invite à envoyer un mail à l'adresse publicbackseat tout attaché @gmail.com, qui est l'adresse mail qu'on utilise pour échanger avec vous pour répondre à ce genre de questions. Nationalisons peut-être. Mais la nationalisation, c'est pas une baguette magique, hein. Si une entreprise est en souffrance économiquement, c'est peut-être aussi parfois parce que ce qu'elle propose sur le marché n'a pas de finalité, ne trouve pas de clients. Les libéraux de droite, ils sont contre les aides aux entreprises. Oui. Jusqu'à ce qu'il faille voter un budget. Et là, on les voit défendre des amendements pour des dispositifs d'incitation fiscale et tout. Non, mais ça va. Oui, on les connaît. On les connaît. On les connaît, les libéraux français. Pourquoi on parle de ça? Attends, je me souviens plus d'où on est parti. On est parti de Dominique de Villepin. Parce que Dominique de Villepin, c'est la source. C'est de lui qu'on part pour toute réflexion. Non, après, on a dit d'autres trucs. Je me souviens plus. Édouard Philippe. Ouais, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Édouard Philippe et Gabriel Attal, on parlait des retraites, voilà, c'est ça, on parlait du dossier des retraites. Typiquement, voilà, non mais, enfin, les retraites, est-ce que les retraites vont à nouveau être un sujet d'élection présidentielle? Est-ce que ça va être un des sujets sur la table sur lequel les candidats vont s'écharper? Ou est-ce que depuis que la réforme des retraites a été adoptée, les candidats vont passer à autre chose, sauf ceux qui étaient opposés évidemment à la réforme, qui vont continuer à proposer le retour à l'âge légal à 62 ans, voire à 60 ans? La retraite à 67 ans de Philippe. Édouard Philippe avait proposé la suppression de l'âge légal de départ à la retraite pour arriver jusqu'à 67 ans à terme comme âge légal effectif pour augmenter la durée de travail tout au long de la vie. Hier, Dominique de Villepin. Il a dit qu'il était pour la suppression de l'âge légal de départ à la retraite, qui serait remplacé par la seule durée de cotisation. En gros, il faut avoir cotisé 40 ans pour pouvoir partir à la retraite. Et pour les personnes qui ont commencé jeunes, non, pour les personnes qui ont commencé tard et qui ont eu des carrières hachées ou qui ont eu des métiers pénibles, il a dit qu'il voulait une prise en compte de la pénibilité. Mais encore une fois, on n'a pas le détail sur la prise en compte de la pénibilité, sur est-ce qu'il renvoie ça à une négociation sociale ou pas. On verra. C'est 43 ans de cotisation. Oui, aujourd'hui, c'est 43 ans de cotisation. C'est 43 ans aujourd'hui ou c'est 43 ans à terme avec l'entrée en vigueur progressive de la réforme de l'année dernière? Je sais plus. Ouais, c'est à terme, c'est à terme. Bon, c'est à terme. Ouais. Avec le système actuel, je dois partir à 69. C'est beau comme chiffre. Félicitations. Nice. Ouais, moi, je dois partir à 67 ou 68. Je sais plus. Je sais plus, j'avais regardé. Eh, vous m'avez pour encore longtemps, hein. Eh, abonnez-vous, hein. Payez vos cotisations. Oh, et on va en faire des streams. Hein. Vous n'êtes pas prêt pour la campagne présidentielle de 2038. Vous n'êtes pas prêt. Mais t'es pas salarié, toi? Non, si, je suis salarié. Si, je suis gérant salarié. Merci, Pinky. Si, je paye mes cotisations. Faudrait que je prenne une complémentaire, d'ailleurs. Hein. Ce serait pas mal. Le jour où j'aurai de l'argent, je ferai ça. Merci, Pinky, pour ta cotisation. C'est quoi le taux de chômage après 60 ans? Il est assez important, le taux de chômage des seniors. Hein. La France a un problème de travail des seniors. C'est très très difficile pour les plus de 55 ans de trouver du travail. Si vous avez un enfant, ça avance l'âge. Ah, si j'ai un enfant, je pars plus tôt. Comment on fait? C'est où Tinder? C'est où Tinder? Ah oh, putain, faut que... Ah non, mais c'est des procédures. C'est des procédures, c'est compliqué. Non, avoir un enfant, c'est compliqué. Ça va réarmer. Ah ça va réarmer. Hein. À l'armée aussi? Ah, quand on va à l'armée aussi, on part plus tôt? Oui, ça m'étonne pas. Bah, faut que je m'engage dans l'armée. Hein. Marine Tondelier qui veut abaisser son âge de départ à la retraite. Oui, Marine Tondelier qui a annoncé qu'elle attendait un bébé. Bravo à Marine Tondelier et tous nos vœux de bonheur à la maman et au futur bambin. Oui, Marine Tondelier qui attend un enfant. Elle a publié un long message sur un réseau d'extrême droite qui s'appelle Twitter. Elle a publié un long message pour parler notamment des fausses couches, parce qu'elle a connu des fausses couches à plusieurs reprises, semble-t-il, par le passé. Et elle a voulu en parler. Donc voilà. Une femme politique qui parle de fausses couches, ça fait ricaner les hommes. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont ricané sur la longueur de son message et tout. Ouais. On les connaît, hein, les mecs de Twitter. Je crois qu'elle veut continuer à se présenter pour la présidentielle, c'est courageux de sa part. Oui, en tout cas, elle n'a pas annoncé particulièrement qu'elle mettait entre parenthèses sa campagne présidentielle. Alors, je rappelle qu'elle est candidate à la présidentielle via la primaire. Primaire dont le sort est pour le moins incertain. Pour le moins incertain, compte tenu du fait que les socialistes sont en train de s'entre-déchirer sur ce processus de primaire. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, continue à défendre la primaire, mais il est contesté en interne. Il est mis en minorité par son allié Boris Vallaud et par le camp de Nicolas Mayer-Rossignol. Donc, normalement, alors c'est ce qui avait été annoncé, mais ça va peut-être changer. Hein. Normalement, les militants socialistes devront voter avant l'été pour savoir s'ils sont pour ou contre la primaire. Voilà, pour savoir si le PS participe à la primaire ou pas. Si le PS ne participe pas à la primaire, elle part pas gagnante, hein, parce que je vois pas les écologistes faire la primaire seule avec l'après, avec debout, etc. Bon. À voir, ce serait le scénario catastrophe en tout cas pour les écologistes. Marine Tondelier a clairement déclaré la semaine dernière que la balle était dans le camp des socialistes, ce qui est vrai. Donc gros point d'interrogation hein, sur l'avenir de cette primaire qui avait été annoncée, qui avait été initiée par Front Populaire 2027 avec Lucie Castet. À laquelle Olivier Faure s'était joint, malgré l'hostilité d'une partie de son bureau national. Si les socialistes ne vont pas à la primaire, ils ne font pas les 5% à la présidentielle après. Bah, Non, mais c'est intéressant. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Les personnes qui défendent la primaire disent que la primaire est le meilleur moyen de faire une candidature commune à plusieurs formations de gauche, à même de faire un score qui ressemble à quelque chose, entre 5 et 10%, voire plus. Les contempteurs de la primaire, eux, disent que c'est certainement pas avec une primaire que la gauche va réussir à remonter le flambeau, qu'il faut une candidature autonome pour tout l'axe social-démocrate qui englobe une partie des macronistes, Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste. Bon, sauf que là-dedans, en fait, t'as Raphaël Glucksmann qui veut pas se soumettre à un processus de désignation quel qu'il soit. Certainement pas une primaire. Faut-il se questionner sur l'avenir des écologistes? Bah, les écologistes, c'est un parti qui est parvenu à se hisser dans la cour des grands grâce à des alliances, le plus souvent avec le Parti socialiste, mais aussi avec la France insoumise. Comme ça qu'ils ont obtenu des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans des alliances au niveau local, au municipal, etc. Et au régional aussi. Donc, sans le PS derrière, Glucksmann n'ira nulle part. Tu penses vraiment que Glucksmann il a besoin du PS? Je pense que le PS est un atout incontournable pour une présidentielle. Pour des législatives, je veux bien, mais pour une présidentielle, Glucksmann, à mon avis, peut avoir confiance dans sa capacité à faire un score sur son nom. Et uniquement sur son nom. Au même type que NMR et Boris Vallaud ne veulent pas de primaire non plus. Non, effectivement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier secrétaire du Parti socialiste est en minorité dans les instances dirigeantes du parti, parce qu'il y a un front de fronde contre lui, qui est majoritaire si on additionne les voix des motions qui sont contre lui. Mais ça ne dit rien à ce stade du vote des militants socialistes. Je comprends pas comment il est arrivé et pourquoi il a un buzz quelconque, Glucksmann. Déjà, les européennes, je comprenais pas. Peut-être parce que tu es aveuglé par ta colère contre lui. Mais il a réussi à traîner le Parti socialiste en tête des élections européennes à deux reprises. À gauche, en tout cas, en tête à gauche. La primaire de la gauche, c'est une blague visant à exclure LFI, premier parti de gauche. Arrête-moi si je dis une bêtise, mais LFI ne souhaite pas participer à la primaire de toute façon. Donc, pas très grave. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de poker menteur, à savoir que tout le monde se place au cas où il y aurait une chance, même s'il y aura des abandons avant la fin de la course? Bah oui, ça fait partie évidemment de la stratégie et c'est normal. La question, c'est tout le monde se place dans quelle perspective? Dans la perspective d'une primaire ou dans la perspective d'une alliance avec Glucksmann? Ou, enfin, tu vois, c'est ça aussi la question de l'avenir du Parti socialiste. Pour ce qui est du Parti socialiste, son avenir se décide entre être allié avec les écolos ou être allié avec Glucksmann. C'est un peu schématique de le dire comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. On en est où de la candidature de Xavier Bertrand? Il est candidat, Xavier Bertrand? Xavier Bertrand, pour l'instant, il plaide pour une primaire à droite. Il n'y a pas encore le bout de la queue d'une primaire à droite. Alors, c'est pas le seul. Il y a aussi Laurent Wauquiez qui plaide pour une primaire à droite. David Lisnard aussi qui plaide pour une primaire à droite. Mais ça n'a pas l'air d'avoir les faveurs de Bruno Retailleau. Les adhérents LR vont voter, là aussi avant l'été, pour savoir quel sera le mode de désignation de leur candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que les dernières présidentielles n'ont pas montré qu'un visage fort marche mieux que l'image d'un parti pour faire un bon score? Qui est-ce que le dernier vainqueur de primaire qui a fait un gros score? François Fillon? François Hollande? Lionel Jospin? C'est Royal? Pas mal. Ça commence à dater un peu. C'était il y a plus de 10 ans en tout cas. De Villepin, il se présente, pas encore officiellement. Pas encore officiellement. Mais nous, on a décidé de le présenter. Nous, on a décidé unilatéralement que Dominique de Villepin, il était candidat, et puis c'est bon, hein, c'est bon, on va arrêter de faire semblant. C'est bon, il est candidat là. Il l'a pas encore dit, mais commence à y ressembler, hein. Je viens de voir passer un sondage. Édouard Philippe bat Bardella au deuxième tour. Oui, Édouard Philippe semble être le candidat le mieux placé pour battre Bardella au second tour. Alors, non seulement il est le mieux placé pour accéder au second tour face à Bardella, mais ensuite au second tour, Édouard Philippe battrait Bardella selon les intentions de vote de certains sondages. Qui y croit? Bah, vu que c'est un sondage qui contrecarre mes opinions, je n'y crois pas. C'est la règle. Pour le reste, on verra. Qui est le plus Macron 2, Édouard Philippe ou Glucksmann? Bah ça, c'est un peu la question de. Est-ce que l'électorat macroniste qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir à deux reprises va se scinder en deux et se répartir sur des candidatures différentes? Ou est-ce que le macronisme va rester uni électoralement derrière la candidature de l'un des deux? Parce que pendant longtemps, moi je m'en souviens, hein, il y a des gens qui disaient que le macronisme était un accident de l'histoire. Le macronisme était un cas particulier. Cette espèce de force centrale nouvelle, là, qui accède à l'Élysée, ça n'a pas d'avenir. Les électeurs de Macron vont bien finir par rentrer au bercail et revoter plutôt à gauche pour les uns, plutôt à droite pour les autres. Et puis voilà, c'est terminé. On retournera dans un bon vieux système politique français, bipartisan. Bon, bah, y a quand même une autre théorie, c'est que cette force politique, qui est née spectaculairement en 2017, a vocation à durer, à perdurer et à durer. Peut-être que la tripolarisation du paysage politique, elle est vouée à durer. Ni le PS ni les Républicains ne se relèveront durablement de leur échec. C'est fini l'époque avec un gros parti à droite, un gros parti à gauche. Maintenant, on a trois pôles autour desquels gravitent des petits partis. C'est possible. Et ça, ce sera une des leçons à tirer de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Au municipal, ils ont existé, les macronistes? Non. Non, non, très peu. Ils ont quelques maires à droite, à gauche. Ils ont soutenu des candidatures issues de partis divers et variés. C'était des candidatures très locales. Merci, Bamtempo. Il faut être naïf pour penser qu'il y aura une majorité aux prochaines législatives. Ouais. Enfin, je dis ouais, c'est toujours pareil. Je m'interroge à haute voix. C'est-à-dire que on est rentré dans un système sans majorité absolue depuis maintenant 4 ans. Encore plus depuis 2 ans. Est-ce que c'est un système d'instabilité parlementaire qui va durer? Ou est-ce que, là aussi, ce n'est qu'un accident de l'histoire et tout va rentrer dans l'ordre? Avec un futur président de la République qui aura une majorité absolue de députés. Ou à défaut d'une majorité absolue de députés, il aura une minorité de censure qui lui permettra de gouverner bon an, mal an pendant 5 ans. Est-ce que tu crois à l'émergence d'une tête inconnue encore aujourd'hui qui gagnerait les élections, un Macron bis? C'est déjà arrivé par le passé. Est-ce que ça réarrivera à l'avenir? J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Je pense que c'est possible. Mais je trouverais ça surprenant compte tenu des équilibres politiques qu'on a aujourd'hui. Et en même temps, si je me base sur les équilibres politiques qu'on a aujourd'hui pour prédire une élection présidentielle, je commets l'erreur que tout le monde commet à chaque fois un an avant la présidentielle. Macron, c'était combien de temps avant les élections en 2017? Macron, il a lancé le parti En Marche en 2016. Je sais pas, genre janvier-février 2016. Ça a été un rush final, Macron. Ça a été très très rapide. Macron était ministre de l'économie. On peut pas dire qu'il était inconnu. Bah oui, non, oui, si vous voulez. Après, tous les Français ne suivent pas assidûment les séances de questions au gouvernement. Et ils ont tort. Mais ouais, non, tout le monde connaît pas la tronche des ministres et c'était pas une star nationale, Macron. C'était un influent ministre, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée. Personne connaît les secrétaires généraux de l'Élysée, hein. Voilà. Je vous rappelle qu'à l'époque, on parlait de Manuel Valls, on parlait de Martine Aubry. Pour le Parti socialiste, c'était ça les noms qui ressortaient, hein. Il a bénéficié de beaucoup de concours de circonstances. Oui, bien sûr. Oui, Emmanuel Macron s'est hissé au pouvoir à la faveur d'un alignement de planètes, où il s'est passé plein de choses. L'affaire Fillon, ça lui a bénéficié indirectement, sans doute un peu, même si François Fillon s'est quand même très très bien défendu avec son score au premier tour. Le fait que François Hollande ne se présente pas. Non, il y avait quand même pas mal de trucs qui ont bénéficié à Emmanuel Macron. Xavier Bertrand 2027, il a ses chances. Xavier Bertrand. Oui, il peut avoir ses chances. Le truc, c'est qu'il y a déjà du monde sur le créneau. Il n'est pas tout seul. La primaire qu'il appelle de ses voeux, elle a des chances de ne pas s'organiser. Et puis, si c'est pour être le candidat des Républicains seul. Bah, il risque de faire la même chose que Valérie Pécresse. Xavier est trop à gauche. Pour une partie de l'électorat de droite, peut-être. Après, on en parlait hier avec Dominique de Villepin, la figure de Dominique de Villepin qui essaye de redonner naissance à un gaullisme social, à un chiracisme. Est-ce qu'il y a un espace politique pour ça? Sachant qu'encore une fois, il y a du monde sur le créneau. Et la figure d'Édouard Philippe est déjà assez encombrante. Comment on fait si aujourd'hui on se retrouve dans aucun des candidats? Est-ce que t'as des conseils? T'as le temps! T'as le temps de ouf! Attends! Attends le premier trimestre 2027! D'ici là, on connaîtra les candidats. D'ici là, on aura entendu les candidats. Ils auront fait campagne. Ils auront des programmes. Ils auront des propositions. Ils auront des... Voilà, t'as le temps de glaner. Là, s'il y a un an avant une présidentielle, t'as aucune idée, c'est pas grave, c'est normal, c'est... Tout va bien. Tout va bien. Ah non, paniquez pas. Hein. Paniquez surtout pas si vous savez pas pour qui vous allez voter l'année prochaine. Hein. Le taux d'incertitude est très important d'ailleurs. Hein. Ce qui rend très volatile d'ailleurs les intentions de vote. Mais c'est tout à fait normal de ne pas avoir de programme ici, là, maintenant, un an avant une élection présidentielle. Il n'y a pas encore de programme. On n'est pas à l'étape des programmes présidentiels. Ils arriveront bien plus tard. Les partis politiques sont en train d'y travailler. Ils ont lancé des groupes de travail, des groupes de réflexion, des cercles, des machins, des trucs et des bidules. Ils arriveront en temps voulu avec un programme qu'ils présenteront. Mais là, à ce stade-là, il n'y a pas de programme. C'est normal. Puis en même temps, vu l'instabilité économique mondiale, sortir un programme maintenant, là. Donc on ne sait même pas ce qui va se passer dans le détroit d'Ormuz dans les deux semaines qui viennent. Ouais. LFI, ils ont un programme? Non, LFI, ils avaient un programme. En 2022, en 2024 avec le nouveau Front Populaire, et là, LFI, ils sont en train de bosser sur leur programme pour 2027. Ils l'ont annoncé, hein, ils sont en train de bosser dessus, mais là, on l'a pas encore, c'est normal. Oui, mais comme tu dis, l'élection présidentielle, c'est plus des problématiques nationales. La guerre en Iran ne sera pas le sujet. Alors, je pensais pas à la guerre en Iran, je pensais à l'augmentation du prix de l'essence. Parce que, en fait, ce qui se passe en Iran a un impact immédiat sur notre pays et son avenir, là, tout de suite. L'élection présidentielle de 2027 aura un visage très différent si le prix du pétrole est un prix très élevé. Ça va tout changer. Ça va changer l'âge légal de départ à la retraite, ça va changer le taux de croissance, les aides aux entreprises, le soutien aux salaires, les finances publiques, donc l'action publique, l'argent qu'on met dans les services publics, tout ça dépend en grande partie du prix du pétrole. Donc, non, ça a un effet direct. C'est pour ça que je vous dis que bien malin celui qui est capable de me présenter aujourd'hui des propositions pour 2027. Je dis, mais attends, frère, attends, on va voir le prix de l'essence, on va voir à peu près les conditions macroéconomiques dans lesquelles on va se diriger dans les années qui viennent, ça va beaucoup changer. Ce qu'on va pouvoir proposer, ce qu'on va pouvoir dire aux Français, etc. Macron n'a jamais eu de programme, ça l'a pas beaucoup gêné. Peut-être que tu l'as pas lu, c'est pas grave. Un pétrole cher, c'est bon pour les finances de l'État. Carrément pas. Un pétrole cher, le ministre du budget ne dort pas la nuit. Il fait des crises d'angoisse, le mec. Il est roulé en boule sous sa couette et il pleure. Ça doit être la panique en haut lieu avec Hormuz. Les mecs doivent se faire des cheveux blancs. Je me doute que là, depuis un mois, il y a des réunions serrées à l'Élysée, ouais. Là, à mon avis, Macron, il fait le point. Déjà avec ses chefs d'état-major des armées, parce qu'il y a des enjeux militaires. Donc déjà, à mon avis... Et puis ensuite, il doit faire le point avec le président de la Banque centrale, il doit faire le point avec le président du Trésor, il doit faire le directeur du Trésor, pardon, il doit faire le point avec son ministre de l'économie et des finances. À mon avis, Macron, il envoie des textos à Roland Lescure pour lui demander comment tu vois les choses, et Roland Lescure lui répondre, c'est la merde. Ouais. Ce numéro n'est plus attribué. Il lui répond, ah! C'est ça. Il lui répond, écoute Emmanuel, ça fait 4 jours que je dors pas. Hein, ça fait 4 jours que je suis en réunion non-stop de crise. On est en train de scruter tous les indicateurs des prix du baril dans le monde entier. c'est la panique partout. On est dans une mer de noir. Les prévisions sont mauvaises. La croissance va s'effondrer déjà qu'elle n'était pas ouf. L'endettement public va skyrocket. La grogne sociale, laisse tomber, on le verra dans la rue, tu verras, ça va être horrible. Voilà. Notre importation de pétrole dépend très peu du détroit. Pourquoi sommes-nous si impactés? Parce que le détroit d'Ormuz a un impact sur le pétrole mondial. Le fait qu'il y ait une raréfaction de la ressource dans ce détroit qui représente 20% des approvisionnements mondiaux fait qu'il y a une hausse de la demande, un maintien ou une hausse de la demande et une raréfaction de l'offre globale. Donc ça renchérit le prix du pétrole pour tout le monde. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et à refuser obstinément de sortir du capitalisme. C'est pas parce que tu sors du capitalisme que tu sors du pétrole, hein. L'Union soviétique était très 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 dépendante du pétrole, hein. Ça lui a joué des tours. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un gilet jaune sur le drapeau français comme symbole pour râler à l'international contre la hausse du pétrole? Pour gueuler aux Nations Unies. Taper du poing sur la table. Il est 14h55, mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit sur Internet puisque nous allons suivre ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Il nous reste 5 minutes pour essayer de voir quels seraient éventuellement les sujets. Qui vont être abordés cet après-midi, quels sont les sujets d'actu? J'ai noté les attaques racistes contre Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, le nouveau maire insoumis de Saint-Denis qui a été copieusement injurié avec des insinuations racistes sur le plateau de CNews, ce qui a provoqué une vive polémique, et encore vive, ça aurait pu être plus vif à mon avis, mais ce n'est que mon avis. Le prix du pétrole, on va peut-être en reparler, effectivement. Le cadmium, ouais, le cadmium. Le cadmium qui est un produit, comment dire, cancérigène et qu'on retrouve dans beaucoup de produits d'agriculture en France. J'ai vu qu'il y avait eu une polémique sur les recommandations des autorités autour du bio, autour de l'agriculture biologique. Le journal Le Monde a révélé que les rapports qui ont été faits ont mis de côté l'agriculture biologique qui serait en grande partie moins impactée que l'agriculture conventionnelle par le cadmium. Donc oui, on peut en parler. Les différents moves d'Israël. Israël qui occupe le sud du Liban et qui annonce vouloir détruire des villages entiers dans le sud Liban. Israël qui met en place une peine de mort pour les Palestiniens jugés terroristes, ce qui fait couler beaucoup d'encre. Réunion du Conseil de sécurité qui a été demandée par la France pour faire le point sur le Liban. Des soldats de la FINUL apparemment ont été visés par des tirs d'Israël. J'ai vu qu'il y avait des militaires sous casque bleu des Nations Unies qui étaient morts suite à une attaque israélienne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est déjà pas mal, hein, vous me direz, c'est déjà pas mal. Ce sera bien de la part de la France d'agir et d'arrêter de commenter. Bah là, tu vas être déçu parce que c'est une séance de questions au gouvernement, donc on est sur du commentaire. Mais bon, c'est peut-être l'occasion pour le gouvernement de nous annoncer les actions qu'il compte prendre. Ouais, je sais pas. Quelle action pouvons-nous prendre contre Israël? Est-ce que l'Union européenne est un gros partenaire commercial? Je crois, oui, que l'Union européenne est un partenaire commercial important pour Israël. Oui, je crois. On a une proximité géographique, qui fait que les échanges sont assez importants. Je connais pas les chiffres, par contre, je pourrais pas te dire. L'Europe, notamment l'Allemagne, est le premier partenaire d'Israël. Ce qui m'étonne pas. Ce qui m'étonne pas. Est-ce que c'est 1h30 les questions? Les questions, c'est 1h10, 15, et puis après, si le cornu fait des tunnels, ça peut monter jusqu'à 1h30, ouais. 1h30 de plaisir, vous vous rendez compte? On est gâtés, hein. Ah, on est gâtés, hein. Quel est le rôle du Parlement vis-à-vis des positions diplomatiques françaises? La commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale joue un rôle dans les relations diplomatiques. Elle contrôle l'action du gouvernement, y compris ses positions diplomatiques. Et de toutes les manières, le Parlement vote le budget, discute et vote le budget. Donc ça peut être l'occasion d'infléchir la position du pays. À quelle fréquence se font les QAG? Tous les mardis et tous les mercredis. Pendant la session ordinaire du Parlement, c'est-à-dire d'octobre à juin. Sauf quand il y a des vacances. Sauf quand il y a des vacances, parce qu'il ne faut pas déconner. L'Assemblée nationale me laisse me reposer de temps en temps. Il est 15h, ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Vous inquiétez pas, dès que ça commence, je bascule. Je suis avec vous, je souffre avec vous. Je renouvelle mon abonnement, tout va bien. Tout va bien. Pitié, pas de minute de silence. Ah, est-ce qu'on va avoir une minute de silence pour commencer la séance? Il y en a eu deux la semaine dernière. Pas pour qui on ferait une minute de silence. Non. Pour Loana? potentiellement. Pour la croissance, le tard. Pour Bruno Salomon, ouais. Pour Chuck Norris. Hop, la séance est en train de commencer. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Montpivet, qui monte les marches, qui la sépare du perchoir où elle va présider. La séance. Les députés rentrent de récréation.
Mes chers collègues, bonjour, la séance est ouverte.
Bonjour.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La oui. première va être posée par Monsieur Stevie Gustave pour le groupe écologiste et social.
Et allez, on commence avec le député écolo Stevie Gustave, député de l'Essonne. Vas-y.
Monsieur le ministre, nègre je suis, nègre je resterai. Écrivait Aimé Césaire, député de la République française. Ces mots sont des mots de dignité. Ils nous rappellent qu'on peut être noir et français, qu'on peut venir d'un quartier populaire et diriger une ville, et qu'en République, ce n'est pas l'origine qui compte, c'est le suffrage universel. En démocratie, on combat un élu sur ses idées ou sur son bilan. Mais quand on attaque un élu pour sa couleur de peau ou pour son origine, ce n'est plus de la politique. C'est du racisme. Et quand cela vise des élus noirs qui accèdent à des responsabilités, il faut le dire clairement, c'est de la négrophobie. Pendant longtemps, la République ne ressemblait pas encore à tout son peuple. Aujourd'hui, les choses changent. Des enfants d'ouvriers, des enfants d'immigrés, des enfants des quartiers populaires deviennent maires, adjoints, députés, élus. Et ce qui dérange encore certains, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est simplement que nous soyons là. On parle souvent des enfants de la République, mais les enfants de la République ont des visages, ils ont des prénoms, et ces prénoms racontent la France. Bali, Shaidati, Anna, Leslie, Yaya, Mariam, Mohamed, Kwami, Ali, Mélissa, Adama, Bassi, Abdelkader, Idir, Landry. Ces femmes et ces hommes ont été élus par le peuple français. Leur légitimité ne se discute pas, elle se respecte. Ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour lutter contre le racisme ?
Stevie Gustave, il est député de l'Essonne, il a 56 ans, il est producteur d'événements artistiques. Il est le fils d'un militaire martiniquais qui est mort au combat, il a passé son enfance au Tchad. Et à Djibouti, il est danseur de hip-hop professionnel, il a été l'un des danseurs de France Gall, il a aussi été son chorégraphe. Et il pose une question sur les attaques racistes qui ont visé des élus lors des élections municipales.
Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.
Et on écoute le ministre de l'Intérieur qui va répondre. Ministre qui s'occupe des collectivités, enfin, qui s'occupe de l'organisation de la République, on va dire
Madame
ça comme ça.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Évidemment, votre préoccupation, je la partage et l'ensemble du gouvernement la partage. Il ne m'a pas échappé que le premier prénom que vous avez nommé est celui du nouveau maire de Saint-Denis. Il ne m'a pas échappé cela, comme les propos qui ont été tenus par certains éditorialistes, chroniqueurs de la chaîne CNews, ne nous ont pas échappé non plus. Ce sont des propos qui sont ignobles, inacceptables, et je les ai dénoncés dès hier matin sur RTL. Ce sont des propos qui ne sont absolument pas acceptables. Je voudrais simplement vous dire également, monsieur le député, que la France que vous décrivez, c'est la France que nous avons tous ici en partage. C'est cette France-là que nous avons en partage. Ça n'est pas la nouvelle France. Ça n'est pas la France qui serait en train de disparaître. C'est la France de la République. C'est la France de la cohésion nationale.
Il n'a pas compris le concept, c'est pas grave.
Qui reconnaît tous ses enfants, quelle que soit leur origine, qui reconnaît tous ses enfants. C'est cette France-là que nous voulons défendre et que nous défendrons. Alors évidemment, ces propos qui sont inacceptables peuvent relever d'incriminations pénales. Et évidemment, ces propos sont à l'étude. Je peux vous le confirmer, nous sommes à l'étude de savoir s'ils relèvent...
Donc le gouvernement étudie la possibilité de poursuivre ces news en justice. Public.
Et vous savez que le racisme, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, qui n'est pas une opinion, qui est un poison, qui est un déni pénal, le racisme est souvent une circonstance aggravante. Alors vous nous interrogez également sur la saisine de l'ARCOM. Oui, l'ARCOM a été saisi par certains parlementaires, je vous le confirme. Nous suivons cela évidemment de très près. Nous allons continuer à suivre cela de très près. Mais ces propos-là, tels qu'ils ont été tenus, je peux vous assurer que comme ministre de l'Intérieur, et je m'adresse évidemment sous l'autorité du Premier ministre au nom de l'ensemble du gouvernement, nous allons les expertiser. S'il doit y avoir des poursuites pénales, il y aura des poursuites pénales. En tout cas, la France que vous décrivez, c'est la France que nous aimons, celle dans laquelle nous nous inscrivons, fiers et fidèles de porter les valeurs de la République.
Merci.
Donc une plainte est à l'étude du côté du gouvernement contre CNews en justice.
La parole est à présent madame Estelle Youssoufa pour le groupe Yacht.
Estelle Youssoufa, députée de Mayotte.
La question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement a annoncé des mesures vendredi pour limiter l'impact de la hausse des prix du carburant, mais rien n'a été annoncé pour les foyers ruraux ou ceux des territoires ultramarins ou corses qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Pour Mayotte, le choc pétrolier est le coup de massue de trop. Demain, 30 centimes de hausse à la pompe à essence, dont Total a le monopole sur notre île. 1 000 euros de plus pour les containers qui importent la totalité de ce que nous consommons. 40% de hausse des tarifs du fret. Dans les supermarchés, la nourriture atteint des prix records. Les prix des billets d'avion explosent, alors que c'est notre seul moyen d'aller nous soigner, étudier, travailler, voir nos familles à La Réunion ou dans l'Hexagone. Que dire de la nouvelle taxe carbone imposée par l'Union européenne depuis le 1er janvier sur les matériaux de construction ? Le ciment, les tôles, les tiges en acier, les parpaings indispensables à Mayotte pour se reconstruire sont devenus des produits de luxe. Mayotte, je vous le dis ici, est à l'agonie. 70% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté. Il n'y a quasiment pas de transport en commun. Nous ne pouvons pas faire jouer une quelconque concurrence à cause de la taille de notre marché. Nos entreprises ne peuvent pas faire face. Monsieur le Premier ministre, après le cyclone Chido, pendant que la crise de l'eau continue, voir maintenant les prix de l'essence, des containers, de la nourriture, des billets d'avion et des matériaux de construction exploser, c'est achevé Mayotte. Ce n'est plus une question de cherté de la vie, c'est une question de survie qui est devenue hors de prix, une reconstruction que personne ne peut se payer.
Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, évidemment, elle a 47 ans, elle est journaliste, elle a été animatrice télé sur LCI, sur TV5 Monde, sur BFM TV, sur Al Jazeera anglais et sur iTélé. Elle est la leader du collectif des citoyens de Mayotte qui lutte contre l'immigration comorienne. Elle s'est fait connaître après le passage du cyclone Chido sur l'archipel et l'écharpe qu'elle porte, ça s'appelle un salouva. C'est une écharpe mahoraise qui représente la fleur d'Ilang Ilang.
Face à la hausse des prix du carburant, couplée, comme vous l'avez dit, au contexte de la vie chère en général. Je voudrais vous dire que dans les départements régions d'outre-mer, d'abord nous avons un mécanisme particulier de fixation des prix du carburant. C'est un dispositif de réglementation, de plafonnement qui permet d'avoir chaque 1er avril un prix du carburant qui se comptabilise par rapport au mois précédent. Ce qui fait que pour le mois de mars qui vient de s'écouler, il y a eu un rôle d'amortisseur. La hausse, elle va se comptabiliser à partir de demain, effectivement, 1er avril. Vous avez raison, il va y avoir cette même augmentation mécanique que dans l'Hexagone, puisque notamment à Mayotte, désormais, le carburant transite par Singapour. Ça signifie concrètement, puisque j'ai les chiffres, que nous aurons des prix du carburant un peu moins supérieurs à ce que nous avons dans l'Hexagone. 1,97 pour le sans-plomb, 1,90 pour le gazole. On est en moyenne dans l'Hexagone à 2,32€, 2,24€. Je veux dire également que nous assurons la sécurité des approvisionnements. Ça, c'est important que nous puissions concrètement le dire à nos compatriotes. Vous savez que nous suivons la situation heure par heure. C'est ce qui a fait que le gouvernement a décliné un premier plan, une première réponse à destination des transporteurs, des agriculteurs, des pêcheurs. Une enveloppe de 70 millions d'euros qui va aussi concerner bien évidemment les territoires des Outre-mer. Nous sommes en vigilance constante et nous nous adapterons en fonction de l'évolution de cette situation. Moi, je suis évidemment en lien quotidien avec le préfet. Pour les autres sujets que vous avez évoqués, vous avez raison sur le prix des billets d'avion. Giovanni William, député, s'est vu confier une mission sur ce sujet. Il a entamé le travail il y a quelques semaines déjà pour que nous puissions apporter des réponses que j'espère nous intégrerons au projet de loi vie chère, tout comme sur le prix du ciment. Je porte ce combat, madame la députée, au niveau européen. Vous pouvez compter sur moi.
Merci Madame la Ministre. Madame la députée.
Vous l'avez dit, c'est le préfet qui fixe les prix des carburants en Outre-mer. Vous avez la main. C'est aussi à Matignon que mon collègue Colombani attend que le Premier ministre signe sa mission parlementaire pour étudier le prix des carburants en Corse. On attend votre signature. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame
c'est
la députée.
Dans les mains du gouvernement, le prix du carburant.
Avant de lui donner la parole, je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à Madame Véronique Ludman, qui est devenue députée de la 4e circonscription de l'Oise le 2 mars dernier.
Une nouvelle députée, Véronique Ludman, députée de l'Oise.
Je vous remercie, Madame la
députée Horizon.
Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale.
Il y a 3 ans, jour pour jour, la Première ministre Elisabeth Borne promettait de changer de méthode pour l'école en proposant 3 ans d'anticipation avant toute fermeture de classe. 3 ans plus tard, qu'en reste-t-il ? Ce matin même, les enseignants sont en grève. Il est annoncé que des centaines de classes fermeront à la rentrée. La méthode n'a donc pas changé. Alors oui, la démographie scolaire décline. Oui, l'Europe vieillit, mais ce vertige démographique ne saurait devenir l'alibi d'un renoncement éducatif. Bien au contraire, il devrait être le signal d'une ambition nouvelle. Moins d'élèves, cela devrait signifier plus d'attention pour chacun d'entre eux, mais surtout initier une réorganisation ambitieuse et pluriannuelle pour l'avenir de l'école. C'est précisément ce combat que porte le groupe Horizons et Indépendants. Dans le cadre de notre journée d'initiative parlementaire, nous avons inscrit la proposition de loi de notre collègue Pierre Henrier visant à valoriser les regroupements pédagogiques intercommunaux tout en sécurisant leur financement. Car l'avenir de l'école doit se construire avec les territoires. Notre école, Monsieur le Ministre, ne tombe pas en ruine par accident, mais sous le poids d'une logique comptable et administrative, d'un métier d'enseignant méprisé dans sa rémunération et contesté dans son autorité.
Véronique Loudman, députée de l'Oise, elle a 63 ans, elle est ancienne directrice d'école maternelle. Elle est la suppléante d'Éric Woerth. Éric Woerth qui a quitté l'Assemblée nationale au début de l'année pour devenir le président du conseil d'administration du PMU. Voilà pourquoi elle se retrouve à l'Assemblée nationale. Elle a été adjointe au maire de Senlis dans l'Oise, chargée du sport et de la santé. Elle pose une question sur les fermetures de classes.
La parole est à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Et un peu de silence, s'il vous plaît.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ludman. Je partage évidemment votre inquiétude devant le vertige démographique et devant le déchirement que constituent les fermetures de classes, singulièrement au milieu rural. Je repartage avec vous... Oui, c'est un déchirement. Je repartage quelques données avec vous avant de vous répondre sur le fond. Ces données démographiques, c'est que nous perdons actuellement, par rapport à il y a 10 ans, une génération tous les 4 ans. Nous avons le taux de fécondité de 1916 et le nombre d'enfants de 1942 avec 28 millions d'habitants de plus. Et nous perdons chaque année 100 à 150 000 élèves dans le système éducatif. Compte tenu de ces éléments, et je suis d'accord avec vous, on ne peut pas se borner à une logique comptable et annuelle. Il faut évidemment qu'on ait une vision pluriannuelle et il faut évidemment qu'on y travaille avec les collectivités locales, dans une double logique en réalité. D'un côté, une logique d'aménagement du territoire, parce que oui, l'école est un élément d'aménagement du territoire, évidemment. Et de l'autre, une logique aussi d'adaptation de l'offre scolaire. Quelle doit être l'offre scolaire pour les enfants qui sont aujourd'hui en maternelle et quand ils passeront le bac dans 15 ans, le passeront dans un système éducatif où il y aura 25% d'élèves en moins. Donc très concrètement, les observatoires dynamiques rurales qui avaient été lancés notamment par ma prédécesseure Elisabeth Borne sont généralisés à tout le territoire et doivent nous permettre de dessiner un chemin non pas seulement à 1 an, à 3 ans ou à 5 ans, mais même à 10 ans. J'aurai d'ailleurs cette semaine l'occasion de... Enfin, l'ADEP aura l'occasion de publier les chiffres à 10 ans, parce que j'ai demandé qu'on ait une vision à 10 ans pour le système éducatif. Et ensuite, on travaillera, maintenant que les élus locaux ont été... conseils municipaux ont été élus, avec les élus locaux, à la fois sur la logique de l'offre scolaire et sur la logique de son organisation. Et c'est pour ça qu'évidemment, je serai en soutien de la proposition-là sur les RPI, qui vient ainsi consolider une logique justement d'aménagement du territoire raisonnable et raisonné dans une perspective démographique hélas sinistrée. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Merci, Monsieur le Ministre. On n'a pas de réponse précise.
Le Rassemblement national.
Hélène Laporte, députée du Lot-et-Garonne.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, lors de votre arrivée rue de Varennes, je cite, il y a 1 an et demi, vous affirmiez vouloir avancer vite et ne jamais renoncer lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Aujourd'hui, partout en France et dans mon département du Lot-et-Garonne, le constat de nos agriculteurs est clair. Ce qui avance vite, c'est le déclin de nos filières. Impuissance face à la crise internationale, plus de 50% sur le prix du GNR depuis début mars. Face à cela, vous annoncez un plan dérisoire de 70 millions d'euros avec un...
Bonjour les viewers de Fonflon, vous arrivez sur le Front National, félicitations.
Et à court terme, rien qui ne règle le fond du problème. Quand actionnerez-vous enfin tous les leviers fiscaux? Je pense à la TVA, aux tarifs d'assises. Impuissance face à l'intransigeance de la Commission qui vient de rejeter la demande de suspension du MACF dans un contexte d'explosion du coût des engrais. Nous sommes le second contributeur net. Quand imposerez-vous un juste rapport de force à l'échelle européenne ? Impuissance face à un carcan réglementaire toujours plus lourd. Il y a eu 2 décrets publiés sur les 7 prévus par la loi du 11 août 2025. La réintroduction de l'acétamipride est écartée du futur projet de loi d'urgence. Quand engagerez-vous réellement la levée des contraintes ? Impuissance face aux enjeux hydriques. Les projets sont toujours à l'arrêt. Les infrastructures réalisées sont interdites d'utilisation par la justice comme à Sainte-Soline. Alors que nos territoires sont soumis aux inondations, on empêche nos exploitations de se prémunir contre la sécheresse par le stockage. Jusqu'à quand ? Impuissance aussi face à la politique de la Commission européenne sur le libre-échange, avec le passage en force sur l'accord avec le Mercosur, un accord avec l'Australie qui multiplie par 10 les quotas d'importation de bœuf. Là encore, quand la France, par votre voix, va-t-elle s'opposer réellement à ce suicide agricole ?
Hélène Laporte, elle a 47 ans, elle est députée du Lot-et-Garonne, du côté de Marmande. Elle est analyste bancaire et conseillère en gestion de patrimoine. C'est la petite fille de Jacques Laporte, qui était candidat FN aux législatives en 97 dans le Lot-et-Garonne. Elle a été députée européenne, elle a été chef de la délégation du RN au sein du groupe. Elle est vice-présidente du Rassemblement national et vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que parfois vous la voyez présider des séances.
A besoin d'actes concrets. Merci.
Merci, Madame Laporte. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre en charge de l'Agriculture.
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs.
Qu'est-ce qu'on fait pour les agriculteurs ?
Madame la députée Hélène Laporte. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que depuis un an, nous avons fait beaucoup de choses. Le contrôle administratif unique, la loi d'orientation agricole, la loi visant à lever les entraves. Elle a été votée, Madame la députée. Vous le savez, vous l'avez votée. L'accélération des versements de la PAC, les plans de soutien, hydraulique, culture méditerranéenne, viticulture, grande culture. J'ai géré plusieurs crises sanitaires, un nombre incroyable, l'ADNC, l'IHAP et j'en passe. Les conférences de la souveraineté alimentaire avec une programmation, une planification inédite, les assises du sanitaire. Et désormais ce projet de loi d'urgence qui va être examiné ici même. Donc nous n'avons pas chômé durant cette année. Alors vous évoquez plusieurs sujets. Tout d'abord sur le GNR. Madame la députée, vous avez examiné le budget cette année, le projet de loi de finances de 2026. Vous avez vu que nous consacrons 1,3 milliard à l'allègement de la fiscalité du GNR. L'État, avec la dernière proposition...
Le GNR, c'est le gazole non routier. C'est le gasoil qui est utilisé pour les tracteurs.
Sur les droits d'accise du GNR. Donc, il faut quand même mesurer l'effort de la solidarité nationale en faveur de nos agriculteurs. Maintenant, votre proposition sur l'étiquetage. Vous savez, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Et c'est une bonne idée. Et je puis vous dire que sur la mention de l'origine, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il se fait qu'il y a une réglementation européenne, ce qui ne doit pas nous empêcher de faire. Nous avons fait bouger les lignes sur l'étiquetage de l'origine de la viande. Nous le ferons également à la manière des Italiens sur des expérimentations sur certains produits. Et les mesures que nous allons prendre dans la future loi d'urgence sur l'achat public dans les cantines permettra précisément d'activer des achats de produits français et européens.
Merci beaucoup, voilà. Madame.
Non, c'est fini.
Merci beaucoup. Le sujet mériterait de longs développements, mais nous en reparlerons.
Oui.
Merci beaucoup.
Je n'en doute pas.
La parole est à présent à Monsieur Vincent Trébuchet pour le groupe UDR.
Vincent Trébuchet, député de l'Ardèche. Le groupe UDR, c'est le groupe d'Éric Ciotti, le maire de Nice.
Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Familles. Madame la ministre, les témoignages d'enfants victimes de violences dans le périscolaire affluent désormais de toute la France. Ils disent l'horreur et révèlent une défaillance grave de notre politique de protection de l'enfance. Il y a 3 jours, nous apprenions à nouveau qu'un enfant de 3 ans aurait été violé dans les toilettes de l'école maternelle Voltaire à Paris. Ce que met au jour le mouvement MeToo École n'est pas une succession de cas isolés, mais une réalité installée, faite d'agressions sexuelles, de viols, d'alertes sans réponse immédiate. Partout, de l'affaire Betaram au dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, en passant par les cas d'inceste parental, le même schéma se répète. La parole de l'enfant est mise en doute. Les signalements ne sont pas suivis d'effets immédiats. Et les adultes mis en cause ne sont pas écartés, mais souvent seulement déplacés. Selon la CIVIS, 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles dans notre pays, dont près de la moitié dans des institutions censées les protéger. Madame la ministre, il faut avoir le courage de nommer les choses. Nous sommes face à un système de prédation rendu possible par des failles de l'État dans sa mission de protection des plus vulnérables entre tous. Ce n'est pas juste un sujet municipal. Ce n'est pas juste un sujet parisien. C'est la responsabilité de l'État qui a failli. Madame la ministre, je m'adresse à vous en tant que députée et en tant que père. Les familles brisent le silence. Mais après, que deviennent leurs signalements ? Comment expliquer que des personnes signalées puissent encore être au contact d'enfants ? Enfin, alors que vous avez récemment annoncé la présentation d'un projet de loi dédié à la protection de l'enfance, pouvez-vous nous assurer qu'il ne laissera place à aucun angle mort et que nous ne découvrirons pas dans quelques mois un
scandale ? Vincent Trébuchet, député de l'Ardèche, il a 37 ans, il a été directeur général d'un magasin Leroy Merlin, il a bossé aussi dans une agence crédit de caisse d'épargne, pardon. Il est employé de la fondation Bien Commun de Pierre-Édouard Sterrin, qui fait la promotion de l'enseignement catholique identitaire.
Qui nous concerne tous, qui...
Et il pose une question sur le périscolaire. Le périscolaire, je vous rappelle que ce sont toutes les activités organisées dans les écoles par des animateurs qui ne sont pas des enseignants. Et c'est géré par les collectivités locales.
Quoi ? Nous travaillons avec le garde des Sceaux pour présenter un projet de loi mi-mai au Conseil des ministres et qui permettra d'apporter des mesures de protection des enfants, dont notamment le certificat d'honorabilité, en tout cas la vérification des antécédents judiciaires de toute personne travaillant avec des enfants pour diminuer ce risque qui, malheureusement, que ce soit dans le périscolaire, mais aussi, et malheureusement pour les enfants confiés à la protection de l'enfance, sont l'objet de scandales que nous voyons régulièrement. Donc oui, monsieur le député, je peux vous affirmer que collectivement, avec les collectivités, avec les départements, nous travaillons pour améliorer la protection des enfants et ce projet de loi va arriver prochainement. Au-delà de ça, ma collègue ministre des Sports, qui est aussi en charge des mesures sur le périscolaire, a rencontré évidemment les différents collectifs.
Est-ce qu'il y a des animateurs périscolaires dans le chat ou des gens qui l'ont été ?
La ministre des Collectivités, que nous travaillons pour être efficaces. Je crois que ce que nous avons besoin, c'est que rapidement nous puissions avoir des mesures votées qui entraînent...
Et est-ce qu'il y a des enfants qui font des ateliers périscolaires ?
La protection de nos enfants.
Ou des anciens enfants ?
Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député.
Madame la Ministre, les familles disent déjà que ce plan sera insuffisant. Il en faudra beaucoup plus pour regagner leur confiance.
Je vous remercie. La parole est à présent Monsieur Éric Coquerel pour le groupe La France Insoumise.
Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, député de Seine-Saint-Denis.
La honte, oui, vous devriez être accablé de honte. Vous, responsable politique, dont plusieurs ici, et médias qui avaient alimenté une campagne raciste et plus particulièrement négrophobe. Une campagne doublée de mépris de classe vis-à-vis d'élus, issus de villes populaires et, le comble pour vous, insoumis ou assimilés par vous à France Insoumise. Bali Bagayoko a concentré tous vos tirs jusqu'au saillie sur CNews, convoquant l'imaginaire raciste pour le comparer à un grand singe et la ville de Saint-Denis à une tribu primitive. Bali Bagayoko a concentré tous les tirs parce que maire de la deuxième ville d'Île-de-France, il se revendique héritier de l'immigration et du programme de rupture plébiscité par les électeurs. Parce que par essence, vous l'estimez illégitime depuis votre supériorité construite de caste, de classe, et consciemment ou pas de race, dont le système que vous perpétuez a inventé le concept pour asseoir sa domination et justifier l'esclavage et la colonisation. Oui, diffamer Bali Bagayoko en dénonçant sans preuve des accointances avec des dealers, c'est du racisme. Oui, cette campagne contre ces nouveaux maires et leur soutien fustigé pour quelques huées, pourtant si fréquentes en France lors des soirées électorales, c'est du racisme. Séditieux aurait osé le président Macron, abject a dit monsieur Attal. Oui, les rappels à l'ordre des ministres Nunez, Amiez et Berger, c'est du racisme. Une tempête volontaire dans un verre d'eau sur la foi d'un site d'extrême droite. Et voilà, Bali Bagayoko, faussement accusé d'écarter des fonctionnaires en raison de leur opinion, alors qu'il n'a que rappelé leur obligation d'appliquer le programme issu des urnes. Un principe évident et le droit d'un maire sauf s'il est noir, insoumis, élu en Seine-Saint-Denis.
Éric Coquerel, il a 67 ans, il a été gérant d'une agence de communication spécialisée dans la voile sportive. C'est un féru de voile. Il a été attaché de presse du Vendée Globe lors de sa création. En 1989, il a aussi participé à la carrière des skippers Michel Desjoyeaux et Isabelle Autissier. Il est aujourd'hui président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et je vous précise que Bali Bagayoko sera l'invité politique de Baxit ce jeudi.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Coquerel. D'abord, je vais redire ce que je viens de dire à l'instant. Enfin, vous nous faites un procès d'intention, je dis bien d'intention. Il n'y a pas un membre du gouvernement, il n'y a pas un responsable du socle commun qui ait tenu les propos que vous dites et que vous qualifiez de raciste. Rendez-vous compte de ce que vous dites, de raciste. Je redis ce que j'ai dit en début de cette séance de questions d'actualité. Le maire de Saint-Denis a été élu démocratiquement. Les propos qui ont été tenus contre lui sur CNews sont ignobles, inacceptables. Nous les condamnons fermement. S'il relève du pénal, il y aura des poursuites. L'ARCOM est saisi, nous serons attentifs aux suites qui y seront données. C'est ça la France, c'est ça notre République. Ça n'est pas la Nouvelle-France que vous appelez de vos voeux, ce n'est pas la France qui disparaît. C'est la France d'aujourd'hui, cette France qui accueille tous ses enfants, quelle que soit leur origine, et qui reconnaît tous leurs talents, tous leurs mérites, au cas d'espèce par l'élection, qui n'est pas contestée, qui est incontestable. Maintenant, monsieur le Président, pardon de vous rappeler que quelque endroit que l'on se trouve du territoire de la République, il est normal que des ministres de la République, et les préfets le feront, rappellent à toutes et à tous ce que sont les règles de la République. Et quand des propos sont tenus, par quelques personnes qu'ils soient, quand des propos sont tenus et qu'il nous semble qu'ils débordent des cadres des règles applicables, il est normal que nous le rappelions. Voilà, il n'y a là-dedans, monsieur le Président, il n'y a là-dedans aucune forme de racisme, c'est l'application des lois de la République. Et quand nous rappelons un élu à la règle, nous ne regardons pas son origine, nous ne regardons pas de quel parti il émane. Partout sur le territoire français s'appliquent les mêmes lois de la République.
Ni la nouvelle France, ni la France qui disparaît, mais la France actuelle.
Madame la Présidente Panot. La parole est à présent à Madame Sylvie Bonnet pour le groupe Droite Républicaine.
Sylvie Bonnet, députée de la Loire.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, je vous partage aujourd'hui une grande inquiétude et une attente qui s'exprime dans nos circonscriptions, celle de la France qui travaille. Vous avez annoncé des mesures pour venir en soutien de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, de nos transporteurs. C'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Le gouvernement a également annoncé l'élargissement à 700 000 foyers du chèque énergie, une aide accordée uniquement sur des critères sociaux, sans prise en compte des contraintes spécifiques de la France qui travaille. Cette France qui vit en périphérie de nos villes ou en milieu rural, comme dans mon département de la Loire. Cette France qui se lève tôt et qui n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture pour aller travailler. Cette France qui n'est pas nécessairement éligible au chèque énergie ou autre aide sectorielle, mais qui a pourtant vu son plein diesel augmenter de 25 euros en quelques semaines. Je pense à nos infirmières libérales, à nos aides à domicile, aux AESH, à nos artisans du bâtiment. Je pense à tous ceux qui, dans nos territoires, n'ont ni transport en commun à proximité, ni la possibilité de se rendre à vélo sur leur lieu de travail, ni les moyens d'acquérir un véhicule électrique. Cette France qui travaille constate aussi que sur une hausse de 50 centimes du litre de gasoil, près de 10 centimes supplémentaires sont perçus par l'État au titre de la TVA. Personne ne comprendrait que l'État puisse ainsi bénéficier de la hausse des prix au détriment de ceux qui travaillent. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre en place un principe simple, que chaque euro de recette supplémentaire engrangé par l'État soit rendu en baisse de taxes à la France qui
Sylvie
travaille.
Bonnet, députée de la Loire, elle a 56 beaucoup, ans, elle a été formatrice en prévention des risques pro, elle a été cadre médico-social dans un EHPAD. Elle pose une question sur le prix de l'énergie.
Vous le savez, on a d'abord...
Il y a de l'énergie dans le chat.
Les urgences qui ont été face à nous, les agriculteurs, les pêcheurs pour qui il n'était plus rentable d'aller en mer, les transporteurs qui étaient confrontés à des réelles difficultés. Pour autant, toutes ces aides nécessaires n'épuisent pas la question des travailleurs qui roulent beaucoup, et vous l'avez dit à juste titre, on pense aux infirmières, on pense aux aides-soignantes et des aides dédiées, spécifiques, ciblées, bornées dans le temps sont actuellement à l'étude en lien et à la demande du Premier ministre parce que nous savons la difficulté auxquelles ils sont confrontés. Il y a évidemment des négociations en cours pour une revalorisation globale qui sont en discussion avec la CNAM. C'est aussi quelque chose d'important. Et nous travaillons pour ces publics prioritaires à des réponses qui sont aussi et qui doivent aussi être des réponses structurelles. Il y a des réponses d'urgence et elles sont impératives, et il y a des réponses de long terme. Et les publics que vous avez cités, ces travailleurs qui roulent beaucoup, doivent être les premiers ciblés par ces réponses structurelles et par le plan d'électrification qu'on annoncera la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Madame la ministre.
Donc il y aura un plan qui sera annoncé la semaine prochaine sur les prix de l'énergie.
Marine Amelet pour le groupe Rassemblement National.
Marine Amelet, députée du Tarn-et-Garonne.
Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Santé, les Français ont peur pour leurs enfants. La protection de l'enfance est malheureusement dans notre pays un sujet délaissé. Les manquements de l'autorité publique dans ce domaine font douter un grand nombre d'acteurs et d'observateurs de la réelle volonté des politiques d'affronter les vrais problèmes. Les chiffres qui circulent par exemple sur l'aide sociale à l'enfance font état de près de 20 000 mineurs qui sont de près ou de loin victimes de réseaux pédocriminels. Dans le même ordre d'idées, les différents scandales qui ont émaillé l'actualité du périscolaire dans la ville de Paris démontrent à l'évidence le manque criant de réaction des pouvoirs publics. Sur des faits criminels de ce type, il est inacceptable que la seule réponse publique ne se limite qu'à faire sauter de petits fusibles sans jamais aller chercher la chaîne de responsabilité supérieure. Plus incroyable encore, le scandale Epstein, pourtant mondial, qui touche notre pays puisque ce criminel avait une résidence régulière à Paris, n'a à ce jour pas donné lieu à des suites judiciaires. Perquisition en 2029, classement sans suite en 2020, et sous la pression de l'opinion publique, réouverture en 2026. Comme c'est étrange, une défiance légitime de l'opinion grandit vis-à-vis de cet immobilisme des pouvoirs publics. Comme pour le trafic de drogue, au pire, vous ne faites rien. Au mieux, vous donnez l'impression de livrer en pâture à l'opinion le petit dealer du coin de la rue pour mieux épargner le réseau criminel. Madame la ministre, entre l'ASE, votre simple réponse aux vrais problèmes,
l'ASE, c'est l'aide sociale
à l'enfance, notamment en matière de prostitution, est une loi sur l'adoption et un tour de France des départements. Après votre silence assourdissant concernant les faits criminels qui ont eu lieu à Paris et le manque de réaction judiciaire sur...
Marine Amelet, elle a 58 ans, elle a été commerciale, elle a été assistante maternelle également, elle est élue dans l'ancienne circonscription de Sylvia Pinel, qui était ministre du Logement à l'époque. Elle a été atteinte d'un cancer du sein en 2024, elle a subi une chimiothérapie et elle a participé au débat sur la proposition de loi sur la prise en charge du cancer du sein. Elle pose aujourd'hui une question sur la protection de l'enfance contre les risques pédocriminels.
Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé.
Merci Madame la Présidente. Madame la députée Amelet, j'avoue ne pas avoir tout compris dans votre question. Je ne rentrerai pas dans des positions par rapport à des faits de justice qui sont en cours. Par contre, je peux vous répondre sur ce qui concerne la protection des enfants. J'ai déjà commencé à le faire tout à l'heure. Je ne peux pas vous laisser dire que les 130 000 professionnels qui travaillent auprès des enfants ne prennent pas en compte la protection des enfants. Je ne peux pas vous laisser dire que des départements de France qui ont mis 12 milliards de plus en 2024 ne prennent pas en compte la protection des enfants et que le gouvernement ne fait rien. Nous avons, avec le garde des Sceaux, réuni le premier comité stratégique interministériel de la protection des enfants, puisque nous devons évidemment prendre en compte les difficultés qu'ont ces enfants, qui sont souvent des enfants confiés à l'ASE, d'ailleurs aussi dans les phénomènes de pédocriminalité, de prostitution. Beaucoup de ces enfants sont concernés quand ils sont confiés à l'ASE. Pour cela, nous avons mis des choses en place. Par exemple, sur leur santé, où depuis le 1er janvier, le parcours coordonné renforcé de ces enfants permet de prendre en charge toutes leurs demandes en soins prises en charge par l'assurance maladie, avec des véritables parcours coordonnés pour baisser et pour améliorer la différence d'espérance de vie qu'ils ont avec la population d'enfants pas confiés. Nous avons, et je l'ai dit avec le garde des Sceaux, travailler un projet de loi qui sera présenté, vous le caricaturez, alors qu'il me semble que ce projet de loi pourra faire consensus, évidemment, pour améliorer la protection de tous nos enfants, certes ceux de l'ASE, mais pas que. Et d'autre part, nous continuons à nous mobiliser pour que ces enfants, vous l'avez dit, juste une transformation de l'adoption, mais Madame la députée, c'est très important que ces enfants qui sont beaucoup institutionnalisés dans notre pays par rapport à d'autres pays puissent demain avoir des perspectives de vie, avoir des cellules d'accueil familiales qui pourra les accueillir.
Merci beaucoup Madame la ministre. La parole est à présent à Madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, des milliers d'enseignants, parents et élus sont mobilisés partout en France contre la suppression de 4000 postes d'enseignants. Au nom du groupe socialiste et apparenté, je tiens à leur adresser aujourd'hui tout notre soutien. Votre mesure pousse à la fermeture de nombreuses classes sur tout le territoire, dont les effets se font particulièrement sentir dans les zones rurales et les quartiers populaires. La jeunesse ne peut pas payer le prix de la rigueur budgétaire. L'éducation et l'égalité des chances doivent être nos priorités. Les organisations professionnelles nous le répètent depuis des mois. Le service public est déjà exsangue. Par exemple, les collèges et lycées ruraux subissent sans cesse des absences de profs non remplacés et un manque de moyens humains constant. En continuant ainsi, ce sont des déserts éducatifs qui se préparent. Dans ma circonscription de l'Orne, comme dans tant d'autres, cette mesure fragilise lourdement les équipes et dégrade la qualité de l'enseignement. Au lycée, les options, spécialités, projets doivent être offerts de façon équitable sur tout le territoire. Par ailleurs, l'inclusion doit constituer notre ambition sociétale. Les jeunes qui ont participé aux travaux du CESE sur le temps de l'enfant ou sur la santé mentale l'expriment clairement. Ils veulent apprendre et être accompagnés par plus de professeurs, plus d'infirmières, plus de psychologues et plus d'AESH. Alors, Monsieur le Ministre, la baisse démographique ne justifie pas ces suppressions de postes.
Chantal Jourdan, députée de l'Orne, elle a 67 ans, elle est psychologue clinicienne. Elle a été maire de Champsecret, une charmante bourgade de 960 habitants dans la région de Flers. Elle a été collaboratrice parlementaire et suppléante de Joachim Pueyo, son prédécesseur. Elle a été chargée de communication du Champ des Possible, une association qui valorise le patrimoine naturel et architectural. Elle pose une question sur les suppressions de classes, les fermetures de classes.
Madame la députée, la parole est à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jourdan. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et sur l'importance de la chute démographique. En l'occurrence, néanmoins, dans l'Orne, j'y reviendrai dans quelques secondes, elle est assez considérable. Je vais me permettre de faire écho à vos propos. Saisir l'occasion, je dirais, de cette triste aubaine pour réduire mon élève par classe, c'est effectivement ce que nous faisons. Jamais le nombre d'élèves par classe n'a été aussi bas dans le premier degré dans l'histoire du système éducatif. Nous ne sommes pas encore à la moyenne de l'OCDE pour une raison très simple, c'est que les autres pays de l'OCDE ont la démographie que nous avons actuellement depuis 20 ans. Si nous ne tirons pas la moindre conséquence de la démographie, il va se passer quelque chose de très simple dans 7-8 ans, quelle que soit la couleur politique du gouvernement qui sera alors aux commandes, c'est que nous n'aurons plus besoin de recruter dans 7-8 ans des professeurs pendant quelques années. Très concrètement, nous aurons cassé la machine à recruter. Et donc ce que je préconise, et c'est complètement indépendant de toute forme de conviction, j'allais dire, partisane, etc., c'est que nous devons avoir un atterrissage en douceur, c'est-à-dire que nous ne suivons pas la démographie, d'ailleurs nous ne la suivons pas cette année, sinon nous aurons supprimé deux fois plus de postes. Il faut un atterrissage en douceur pour, en réalité, baisser progressivement le nombre d'élèves par classe et ne pas créer une crise de recrutement à l'horizon 7 ou 8 ans qui ne manquera pas d'arriver autrement. Et s'agissant de l'Orne, puisque on a pris l'exemple de l'Orne qui est effectivement intéressant, dans l'Orne, entre 2017 et 2025, nous avons perdu 17% d'élèves. 17% d'élèves. C'est 3300 élèves de moins. Nous allons continuer malheureusement à en perdre 2 ou 3% cette année. Et effectivement, nous supprimons 17 postes. Mais en vis-à-vis, et j'insiste là-dessus parce que vous l'avez aussi mentionné, je préconise, et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait dans le cadre de la loi de finances, de renforcer les effectifs, non pas des professeurs, mais des autres personnels, infirmières, assistantes sociales, psychologues de l'éducation nationale. Nous avons créé 300 de plus cette année parce que nous réamorçons les concours. parce que ce sont des concours à 200, 250 postes par an, donc on fait plus 100, arrêtons de 30% les concours, et évidemment les augmentations d'AESH.
Ouais, donc en gros, vous ne plaignez pas, parce que si on supprimait vraiment des postes à la moyenne de l'OCDE, on serait bien plus bas que ça en nombre de postes.
Ensemble pour la République.
Pas sûr que ça satisfasse les députés de gauche. Stéphane Buchou, député de Vendée.
Madame la ministre de la Mer et de la Pêche, 1,10€ le litre de gasoil maritime. Voilà une conséquence très directe de la guerre au Moyen-Orient qui impacte un secteur déjà fragilisé, celui de la pêche. Quand près de 40% du chiffre d'affaires d'un chalutier part en frais de carburant, alors les navires restent à quai. Quand aujourd'hui, 31 mars, après la fermeture d'un mois du golfe de Gascogne, les pêcheurs de la façade atlantique sont plus restés à terre qu'ils ne sont sortis en mer, alors c'est le monde de la mer qui vacille. Madame la ministre, vous êtes venue dans ma circonscription au Sable d'Olonne vendredi rencontrer les acteurs de la filière. Tous vous ont dit leur très forte inquiétude quant à leur avenir. Tous vous ont exprimé avec une grande dignité leur profond désarroi. Dès lors, l'aide de 20 centimes par litre annoncée est à la fois bienvenue et nécessaire. Elle témoigne de l'engagement du gouvernement. Mais cette bouffée d'air ne saurait masquer le mal plus profond qui touche ce secteur depuis trop longtemps. Les crises à répétition pour lesquelles la politique du carnet de chèques a été préférée aux réformes structurelles ont montré leurs limites, d'autant plus dans le contexte budgétaire actuel. Il est donc urgent de repenser le modèle de gestion de la pêche dans notre pays et en Europe, en incluant la révision des quotas, l'accompagnement de la décarbonation des flottes, la valorisation des produits de la mer et l'amélioration de la gouvernance pour intégrer l'ensemble des parties prenantes.
Est-ce qu'il y a des poissons dans le chat ?
Dans les rapports parlementaires qui vous ont été remis ces derniers mois, des propositions sont sur la table. Ce qu'il faut, c'est bâtir un avenir, pas seulement colmater les brèches, car la guerre peut malheureusement durer. Je sais, Madame la Ministre, qu'avec le gouvernement, vous portez ces enjeux avec détermination. Ce travail collectif, nous sommes prêts, ici, à l'Assemblée nationale, à le mener avec vous.
Stéphane Buchou, député de Vendée, du côté des Sables d'Olonne. Il a 52 ans, il a été directeur adjoint de Cocktail Vision, une société de publicité et de communication numérique. Il a commencé dans l'immobilier, dans le secteur bancaire, avant de devenir publicitaire. Il s'était opposé à l'interdiction de la publicité numérique et lumineuse dans l'espace public en 2023. Et surtout, il a été vice-président du club de foot des Écureuils, basé à Saint-Jean-des-Monts, en Vendée.
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député...
pose une question sur le gasoil maritime, les pêcheurs.
Merci pour votre présence vendredi, et puis j'en profite pour remercier aussi tous vos collègues qui me remontent aussi la situation sur, dans les ports. Nous étions effectivement au Sable d'Olonne et nous avons pu mesurer le désarroi des pêcheurs qui ont subi de manière immédiate les impacts du conflit au Moyen-Orient. Certains navires sont restent à quai. C'est aussi toute la filière, les mareyeurs, les criers, les ports qui est impactée par cette hausse du carburant. Et vous l'avez dit, parfois c'est 30 à 40% du chiffre d'affaires. Alors je leur dis qu'ils ne sont pas seul, et vous avez pu entendre mes propos vendredi. Dès le début du conflit avec Maud Bréjon, nous avons réuni des représentants de la filière avec les metteurs en marché, les banques, pour construire un dialogue et afin que chacun, à son échelle, joue le jeu. Le 23 mars, vous le savez, nous avons répondu aux besoins immédiats des entreprises en ouvrant un droit au report de cotisations sociales et à l'échelonnement des échéances fiscales. Mais la situation que nous surveillons de près évolue et elle évolue vite. Et le gouvernement est intervenu en conséquence. Vous le savez, vendredi, un accompagnement des secteurs prioritaires, et la pêche en était un, a été annoncé. L'ensemble des navires bénéficiera au mois d'avril d'un remboursement sur facture de 20 centimes par litre du carburant. J'ai porté ce projet hier auprès de la Commission européenne.
Catherine Chabot qui est en train de parler, c'est la ministre de la Mer. Elle a 62 ans, ça a été la première femme à terminer un tour du monde en solitaire et sans escale en 1997.
Et notamment sur la décarbonation du secteur, il faut l'accélérer. La flotte de pêche est vieillissante et c'est également ce que j'ai demandé au Conseil hier avec deux mesures. Utiliser la possibilité d'utiliser les fonds publics européens pour moderniser la flotte, mais aussi lever les freins à la réforme de la politique commune des pêches pour pouvoir décarboner les flottes. Il existe des projets, à nous de les accélérer.
Merci,
je vous remercie.
Madame la ministre, merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Alexis Corbière pour le groupe écologiste et social.
Alexis Corbière, député insoumis écolo de Seine-Saint-Denis.
J'y reviens. L'école publique est en danger et avec elle la promesse exigeante d'une république sociale et émancipatrice. Aujourd'hui est jour de mobilisation dans l'éducation nationale. J'apporte avec mon groupe tout le soutien aux enseignants et aux parents d'élèves qui ont manifesté. Ils sont notre fierté. Contrairement à ce que vous avez dit, il ne s'agit pas d'un atterrissage en douceur de quelques mesures démographiques, mais d'une politique brutale. Je dis bien brutale et qu'on en juge. Vous prévoyez pour la rentrée prochaine pas moins de 3256 suppressions de postes, 1891 dans le maternel et l'élémentaire. Vous frappez grandes agglomérations comme petites communes. Tout simplement, prendre l'exemple à Paris, 172 suppressions de classes, 200 en Seine-Saint-Denis, qui pourtant déjà est frappé par 30% de moins de moyens publics, 26 dans ma seule circonscription, 175 dans les Yvelines, 168 dans le Val-de-Marne, 221 dans le Rhône, 88 en Loire-Atlantique, je pourrais continuer longuement. Tous les départements sont frappés, tous, sans exception. Vous justifiez ces suppressions par le médiocre argument que vous avez répété de la baisse démographique. Mais en vérité, vous pourriez en profiter comme une opportunité pour une reconquête républicaine. On vous l'a dit, dans les collèges aujourd'hui, nous sommes à 25 élèves par classe, alors que la moyenne européenne est de 21. Nous pourrions en profiter pour améliorer les conditions d'études de nos enfants et les conditions de travail des professeurs. Mais vous refusez cela. Vous refusez l'opportunité aussi de pouvoir enfin créer des postes de remplaçants, alors que c'est un problème. Vous pourriez améliorer les conditions d'accueil des enfants qui souffrent de handicap. Vous pourriez enfin permettre...
C'est marrant, il y a trois anciens insoumis sur l'image.
13% d'enfants souffrant de handicap qui n'ont actuellement pas de moyens puissent enfin avoir la loi qui s'applique pour eux, mais vous le refusez pour de basses mesures comptables.
Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis, du côté de Montreuil. Il a 57 ans, il est prof de lettres et d'histoire géo en lycée professionnel. Il a été trotskiste, lambertiste. Il a été conseiller de Paris, adjoint à la maire du 12e arrondissement. Il a dénoncé un manque de démocratie interne à LFI en 2022. Puis il a pris ses distances, on va dire.
Corbière, voilà, excusez-moi, je vous cherchais du regard. Vous étiez rassis. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas, mais vraiment, enfin, je me permets vraiment de conjurer tout le monde par rapport à ça. Nous ne pouvons pas ne pas regarder en face une réalité démographique inédite dans notre pays. Nous n'avons jamais, jamais connu ça. Quand on perd une génération tous les 4 ans, je suis désolé, mais compte tenu de notre configuration scolaire, nous ne pouvons pas ne pas le regarder. Non, non, madame. Nous ne cassons pas l'école publique. Madame la députée, monsieur le député, pardonnez-moi, je réponds à la question, ça ne vous dérange pas. Lorsque nous avons depuis 2017 perdu 600 000 élèves dans le premier degré, nous y avons créé 16 500 postes. C'est ça la réalité. Moins 600 000 élèves, plus 16 500 postes. À présent, nous sommes en train de perdre de manière accélérée des élèves et effectivement, nous sommes amenés à suivre en partie cette démographie. Pardon, mais on va prendre l'exemple de la Seine-Saint-Denis, puisque vous l'avez mentionné, c'est effectivement un exemple important. En Seine-Saint-Denis, depuis 2017, nous sommes passés de... Pardon, ce sont des moyennes, bien sûr, et j'ai conscience que ce sont des moyennes. De 23,7 à 19,7 élèves par classe. 4 élèves par classe de moins en moyenne dans le premier degré. Si on prend l'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis, et vous savez que ce département est malheureusement très concerné par l'éducation prioritaire, puisqu'il concentre un certain nombre de difficultés sociales, nous sommes à 17,2 élèves par classe en moyenne en éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Et figurez-vous que sur la même période, on va raisonner différemment, on va raisonner en nombre de professeurs pour 100 élèves. Nous avons mis en moyenne un professeur de plus pour 100 élèves en Seine-Saint-Denis. Nous sommes passés de 5,75 à 6,75. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un effet pour la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut s'interroger collectivement sur le ratio ouverture-fermeture. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, vous avez parlé de fermeture, mais je rappelle qu'en Seine-Saint-Denis, nous ouvrons 141 classes l'année prochaine, monsieur le député. Ce qu'il faut aussi prendre en compte tenu de la situation démographique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député ? Oui, monsieur le député.
Vous mentez, monsieur le ministre. C'est 340 suppressions de classes pour la Seine-Saint-Denis et le ratio est de 200. J'ai dit vrai et le reste de vos propos sont scandaleux. Scandaleux, c'est un mépris pour tous les enseignants de Seine-Saint-Denis.
Je rappelle que les enseignants sont mobilisés aujourd'hui dans un jour de grève nationale contre les fermetures de classes.
Pour le groupe démocrate.
Hans Gumbs, député de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
De l'Europe et des affaires étrangères. L'Ukraine est à 2000 km d'ici. C'est pas si loin que ça, dit-on. De Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à Santiago de Cuba, c'est moins loin. Le 3 janvier dernier, une attaque américaine contre le Venezuela a suffi à fermer le ciel caribéen. Pendant plusieurs heures, des vols vers les Antilles françaises ont été annulés. Nos territoires ont subi les conséquences directes d'une décision prise à Washington. Depuis, la pression de Donald Trump sur Cuba ne cesse de monter. Vendredi dernier, depuis Miami, il l'a affirmé. Cuba is next. Ce sont des menaces explicites formulées publiquement par le président de la première puissance mondiale. Dans un environnement où la logique militaire supplante désormais la diplomatie, nos territoires ultramarins de l'Atlantique, comme l'ensemble des pays de la Caraïbe, sont exposés comme ils ne l'ont jamais été depuis des décennies. Leur sécurité, leur approvisionnement, leur desserte aérienne dépend de la stabilité d'une région que Washington traite aujourd'hui comme un théâtre d'opération. Vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, une conférence régionale sur la sécurité en Martinique en juillet prochain avec les partenaires du G7. Cela témoigne de la volonté de la France de renforcer son rôle dans cette région stratégique. Ma question est la suivante. Quelle stratégie concrète le gouvernement met-il en œuvre dès aujourd'hui pour protéger nos territoires face à une possible escalade autour de Cuba?
Franz Gumbs, député de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, il a 72 ans. Il est prof de maths et de sciences. Il a été proviseur en Guadeloupe et à Saint-Martin. Il a fait toute sa carrière dans l'éducation nationale. Il a été président du conseil territorial de Saint-Martin entre 2008 et 2012. Et je vous le rappelle pour votre culture, que Saint-Martin est l'unique territoire français qui a une frontière terrestre avec les Pays-Bas.
La France, puissance d'équilibre et voix indépendante dans les crises internationales, peut-elle rester silencieuse ? Quelles actions concrètes le gouvernement entend-il prendre pour soutenir l'acheminement du fret sanitaire et alimentaire vers Cuba et pour peser au sein des instances internationales en faveur d'une levée des restrictions qui étranglent la population ?
Une question intéressante sur Cuba. Merci Cuba qui est la cible directe de Donald Trump. Cuba qui connaît une crise énergétique et économique majeure depuis plusieurs
Merci
mois maintenant.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
Que dit la France ?
Monsieur le député Franz Gumbs, vous avez raison de le souligner, l'état d'asphyxie économique dans lequel se trouve Cuba, qui touche la population cubaine de façon totalement indiscriminée, ne peut qu'entraîner des conséquences sur la stabilité de la région, de l'île, mais de la région tout entière. Et de ce point de vue, vous le rappeliez d'ailleurs, la France est un pays de la Caraïbe, avec près de 800 000 ressortissants français qui habitent dans un certain nombre de territoires et d'îles que vous connaissez bien. Et donc la stabilité de la région est pour nous une priorité absolue, et je peux vous assurer de l'attention qui est portée par le gouvernement. De ce point de vue, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, compte tenu de la situation que vous avez rappelée, demande, vraiment engage nos ressortissants à ne pas se rendre à Cuba pour l'instant, compte tenu des risques qui existent sur le maintien des liaisons aériennes. Et deuxièmement, là aussi ça a été évoqué par vous-même, monsieur le député, dans le cadre du G7 que préside la France actuellement, eh bien il y a toute une série d'initiatives et d'échanges qui sont en cours, précisément pour suivre de très près, avec attention je l'ai dit, la question de la stabilité et de la sécurité dans la région. En ce qui concerne Cuba, nous avons depuis 1992, sans discontinuer, demandé aux Nations Unies la levée de l'embargo. Nous appelons en permanence au dialogue de façon à favoriser des perspectives de stabilisation pour Cuba. Et nous saluons d'ailleurs le fait qu'il y ait des pourparlers engagés entre les États-Unis et Cuba pour plaider d'autant plus au sein de l'Union européenne pour le maintien de ce dialogue qui doit être constructif mais qui doit être aussi exigeant. Et de ce point de vue, il est important que Cuba, notamment en matière de droits de l'homme, sur l'ouverture économique, fasse des gestes. Enfin, sur la partie humanitaire, nous l'avons fait lors de l'ouragan Melissa. Nous sommes, en fonction de nos moyens, à disposition dans le cadre des démarches conduites par l'ONU en matière d'aide d'urgence humanitaire et en fonction des appels de l'OMS.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Bonnecarrère.
Philippe Bonnecarrère, il est député dans aucun groupe.
Oui.
Député non inscrit,
Madame,
comme on dit, député
Madame
indépendant,
la Présidente,
député du Tarn.
Collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La sécurité concerne la lutte contre le narcotrafic ou le terrorisme, mais aussi une sécurité au plus proche de nos concitoyens, la sécurité du quotidien. Vous avez présenté, Monsieur le Ministre, un projet de loi lors du Conseil des ministres du 25 mars avec cette ambition. Quel est le calendrier de ce projet de loi pour la sécurité du quotidien ? Quel en est le contenu ? Alors que Monsieur le Premier ministre met en avant l'objectif d'un gouvernement utile jusqu'à la date de la présidentielle, pourriez-vous expliquer à la représentation nationale et à travers elle à nos concitoyens quelles en seraient les mesures les plus efficaces, les plus pratiques et, si je puis reprendre l'adjectif évoqué il y a quelques secondes, les plus utiles ? Est-ce que les équipes municipales, élues il y a quelques jours, peuvent y trouver un soutien opérationnel supplémentaire de l'État
pour assurer la sécurité au quotidien de nos concitoyens.
Merci, monsieur.
Philippe Bonnecarrère, c'est un ancien du RPR. Il a été sénateur du Tarn. Il a été membre de l'UDI.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le...
Et puis il a décidé de siéger dans aucun groupe pour garder son indépendance. Il pose une question sur le futur projet de loi de sécurité du quotidien.
Vise à aussi améliorer, pas que, mais aussi améliorer la sécurité du quotidien de nos concitoyens, avec des mesures fortes pour lutter contre les rodéos, les squats, l'usage des mortiers, le protoxyde d'azote, donc, et qui vise à apporter des réponses immédiates, donc soit par un durcissement des sanctions pénales existantes, c'est le cas notamment pour l'usage des mortiers ou des rêves parties, soit en créant de nouvelles infractions pénales, c'est ce que nous faisons pour le protoxyde d'azote. Et puis il y a aussi des procédures administratives qui sont immédiates, efficaces, comme la fermeture des commerces qui vendent illégalement du protoxyde d'azote.
Oui, les mortiers, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un mortier d'artifice, c'est un feu d'artifice tout simplement. On appelle ça un mortier.
Quand il y a l'infraction de rodéo, pour les préfets, de prendre une interdiction de conduire des véhicules terrestres à moteur, quelle qu'en soit la qualité, sans permis, avec permis. Donc voilà, donc ce que l'on veut, c'est répondre immédiatement, apporter une réponse pénale qui soit forte et une réponse aussi en matière de procédure administrative. On recherche l'immédiateté de la sanction, évidemment, pour éradiquer complètement toutes ces infractions du quotidien, mais qui sont des infractions très graves. On le voit tous les jours avec l'utilisation du protoxyde d'azote. Voilà ce que je pouvais vous dire, monsieur le député. Évidemment que ce travail s'effectuera par les préfets dans les départements, en lien très...
Alors, il ne s'agit pas de pénaliser le fait de tirer des feux d'artifice. Il s'agit de pénaliser le fait de tirer des feux d'artifice en direction des forces de l'ordre. J'ai cru comprendre que c'était ça l'idée du truc. Ou alors, c'est simplement le fait de tirer des feux d'artifice la nuit, en dehors de toute célébration particulière.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Oui, la sécurité, monsieur le ministre, est un ensemble. J'espère que la réforme des polices municipales, à laquelle vous avez fait référence il y a quelques secondes, comme celle de l'audiencement criminel pourront aboutir rapidement et que celle sur l'exécution des peines n'attendra pas. Tout n'est pas qu'une question de texte face aux réalités, c'est aussi une question de mise en œuvre opérationnelle et je veux simplement espérer à travers cela que l'année qui vient jusqu'à la présidentielle sera effectivement une année utile pour tous nos concitoyens.
Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le ministre.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, donc pour le calendrier, ce texte, le texte dont j'ai parlé, il sera adopté dans l'année. Il sera adopté dans l'année et même avant l'été, on espère qu'il y aura eu une lecture devant chaque chambre et donc les choses avanceront très vite. Quant à vos objectifs opérationnels, je le redis devant la représentation nationale, comme ministre de l'Intérieur, je suis un ministre de la fermeté. Le principe pour les gendarmes et les policiers, c'est l'intervention et l'exception, c'est la non-intervention.
Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent au président Stéphane Peu pour le groupe GDR.
Stéphane Peu, le président du groupe communiste and Friends, député de Seine-Saint-Denis.
Depuis les élections municipales, une déferlante raciste d'une violence inouïe s'abat sur un certain nombre d'élus, en particulier le maire de Saint-Denis dans ma circonscription, Bali Bagayoko, dont je salue le calme et la dignité face à ces attaques. Ainsi, lorsqu'il prononce « ville des rois », l'inconscient de certains journalistes entend « ville des noirs », tandis que d'autres le comparent à un singe, à un mâle dominant, à un chef de tribu. On se croirait revenu en 1931, quand l'exposition coloniale présentait des zoos humains. Depuis l'élection, ce sont des centaines d'heures d'antenne, des milliers de commentaires haineux d'un racisme décomplexé qui se déverse. Ils lui font un procès en illégitimité sur des bases racistes. Mais en dénigrant les élus qu'ils ont choisis, c'est toute la population de nos villes qui se sent insultée. Ne soyons pas dupes, ces médias qui pratiquent le lynchage font le choix du séparatisme en dressant les Français les uns contre les autres. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 semaines que ça dure, votre gouvernement a été bien silencieux, trop silencieux. Mes questions seront simples. Quand allez-vous prendre conscience du défi qui est lancé à notre pays, à sa cohésion nationale, à son histoire, à ses lois et au respect de son peuple dans sa diversité?
Stéphane Peu, il est élu dans la ville de Saint-Denis, dont est élu maire Bali Bagayoko, qui sera l'invité politique de Baxit ce jeudi. Stéphane Peu, il a 63 ans, il a été journaliste, militant antiraciste et directeur d'office HLM. Il est breton d'origine, il a été animateur de mouvements lycéens à Rennes. Dans les années 80, il a été le coordinateur du mouvement français contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été vice-président de la Fédération nationale des offices HLM. Il est spécialiste des questions de logement et il est président du groupe communiste. Et en tant que président de groupe, c'est le Premier ministre qui va lui répondre.
Merci Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Stéphane Peu, dans cette ambiance malsaine, il faut bien le reconnaître et le souligner, je pense qu'il faut toujours revenir avec des principes simples, des principes clairs, les principes de la République. Et je le disais en d'autres circonstances il y a de cela quelques semaines, et nous y sommes, il faut toujours, et je sais que vous le faites, toujours refuser la violence dans le débat public, la violence physique, la violence verbale. Le racisme n'est pas une opinion, comme l'antisémitisme, comme l'homophobie, et donc par définition, il tombe sur le coup de la loi. Mais avant de tomber sur le coup de la loi, il tombe aussi sur le coup d'une responsabilité politique collective qui nous revient de rappeler ici sans relâche, nous devons refuser toute forme de violence dans le débat politique et dans le débat public. Et la manière dont s'est passé de manière globale et générale les élections municipales ne sont pas une réussite collective. Ensuite, il y a la responsabilité individuelle. Le maire de Saint-Denis est un agent de l'État. Comme maire, il est agent de l'État. Et donc, il mérite une protection particulière. Et ça, nous le faisons pour les maires, mais je souhaite que nous allions plus loin. Et dès lors qu'il aura porté plainte, Monsieur le Président Stéphane Peu, je demanderai au préfet de Seine-Saint-Denis de se constituer partie civile à ses côtés, car une fois de plus, le racisme n'est pas une opinion, et donc c'est à la justice de dire le droit, et non pas au gouvernement, cela va sans dire, et c'est à l'autorité judiciaire, le parquet, puis le siège, d'établir les faits. Mais de cela aussi, le maire est un agent de l'État et donc lui aussi doit veiller au respect du droit dans la commune. Et ça, c'est évidemment pas la réponse à votre... Ce n'est pas la réponse au président Peu, mais au député Coquerel tout à l'heure, qui a tenté de faire croire qu'il y aurait une suspicion de racisme de la part du gouvernement de la République. Et non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire cela, c'est un mensonge. Et vous participez justement, en disant cela, à la banalisation du mal. Et cette banalisation du mal et du racisme doit être combattue avec la même force et sans relâche.
Merci, Monsieur le Premier ministre.
Le Premier ministre qui fait la différence entre les communistes et les insoumis.
La parole est à présent à Monsieur Didier Le Gac pour le groupe Ensemble pour la République.
Didier Le Gac, député du Finistère,
ma question
en Normandie.
C'est à Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Madame la ministre, chère Françoise Gatel, ça y est, le grand rendez-vous démocratique des élections municipales vient de s'achever et les Français ont choisi pour 6 ans les élus qui vont les représenter dans les 35 000 communes du pays. Des élus qui, l'intérêt général chevillé au corps, vont maintenant s'atteler à faire vivre la démocratie locale et à mettre partout en œuvre les services publics et les équipements publics de proximité au service de leurs habitants. D'ailleurs, je voudrais ici même et au nom de la représentation nationale saluer ces milliers de femmes et d'hommes qui, depuis dimanche dernier, sont à pied d'œuvre pour gérer le quotidien de nos concitoyens. Désormais, donc, les conseils municipaux sont installés, les maires sont élus ainsi que leurs adjoints et les commissions peuvent se mettre à travailler. Et vous le savez, Madame la Ministre, vous qui avez été maire, comme moi, l'un des premiers actes que ces maires vont devoir poser très rapidement, c'est justement le vote du budget de leur commune. C'est bien évidemment pour eux le moment le plus important, le plus politique de l'année, au sens noble du terme, puisqu'avec ce budget, ils devront commencer à tracer leur feuille de route pour le mandat. Et pour les nouveaux élus, ils vont devoir d'ailleurs se familiariser avec les excédents de fonctionnement et autres capacités d'investissement. Dans ce cadre, et c'est l'objet de ma question, Madame la Ministre, pourriez-vous nous rappeler ici et aujourd'hui quelle est la trajectoire que nous avons votée au dernier PLF pour les dotations de l'État pour 2026 envers les communes et notamment le montant de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est, comme chacun le sait, la principale dotation de l'État.
Didier Le Gac, député du Finistère, du côté de Brest, il a 60 ans, il a été formateur auprès de l'association de formation professionnelle des adultes, l'AFPA. Il a débuté sa carrière dans le secteur bancaire, il a bossé chez CTLM et chez BNP Paribas. Il a été maire de Lampol-Plouarzel, petite commune côtière bretonne, située près de Brest.
Merci,
il pose une question sur le pognon
Monsieur
des collectivités locales.
Merci de votre pensée de gratitude à l'égard de tous les nouveaux élus. Alors, nous avons encore quelques communes où il n'y a pas de conseil municipal, parce que vous le savez que certaines sont encore sous délégation spéciale. Merci de votre question qui me permet de rappeler ce qui a été voté et ce que le gouvernement a voulu, c'est-à-dire l'expression d'un soutien financier très stable, très constant à l'égard de nos collectivités. Je rappelle d'abord que l'ensemble des dotations de l'État vers les collectivités, c'est 154 milliards d'euros, et vous m'interrogez sur plusieurs éléments. D'abord, la dotation globale de fonctionnement, qui correspond à 10 à 15% des recettes de nos collectivités. Celle-ci a été maintenue au niveau de l'an dernier, c'est-à-dire on est à 27 milliards d'euros. La répartition de la dotation est en ligne depuis cet après-midi. Et donc nous avons 52% des communes qui ont une amélioration de leur dotation, 47% qui perdent quelque peu. Deuxième élément sur lequel vous m'interrogez, c'est la solidarité territoriale que nous avons voulu préserver avec la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine pour soutenir les communes les plus fragiles. C'est ainsi 5 milliards d'euros que nous avons dédié à cette solidarité. Troisième point, c'est les projets d'investissement pour accomplir les transitions qui sont nécessaires et garantir l'avenir. Le budget de subvention d'investissement est à hauteur de 2 milliards d'euros, répartis, comme vous l'avez dit, entre différentes enveloppes. Et enfin, puisque l'Assemblée a voté la proposition de loi sur le statut de l'élu, il y a deux nouvelles dotations qui viennent d'abord pour tous les maires comme agents de l'État, comme le Premier ministre l'a rappelé, c'est 19 millions d'euros supplémentaires, mais c'est aussi pour les communes de moins de 1000 habitants une dotation élu locale supérieure.
Françoise Gatel, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. C'est la ministre des collectivités locales.
Bruno Clavet pour le Rassemblement national.
Bruno Clavet, merci, député du Pas-de-Calais.
Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dans trop de communes de France, les élections municipales de mars ont viré au déchaînement de haine, à la violence, à la traque et à la contestation. À Fresnes, à Clichy, à Grenay, à Oigny, à Saint-Denis, nous avons tous vu des scènes insupportables, des invectives, des coups de pression, des débordements, des tensions extrêmes et même des menaces physiques. Des candidats ont dû être exfiltrés sous protection policière, comme dans ma circonscription, à Billy-Montigny, où l'extrême gauche et les communistes ont contesté le résultat des élections, en s'en prenant physiquement à notre candidat, Yanis Godilla, mais aussi à ses colistiers, à leurs familles et même aux forces de l'ordre venues les protéger. Voilà, monsieur le ministre, le degré de sauvagerie politique auquel nous sommes rendus. Et ces faits ont un dénominateur commun, bien sûr. Il s'agit de l'extrême gauche. Car oui, ces soulèvements insurrectionnels sont ceux d'une extrême gauche de plus en plus radicalisée, qui confond opposition et persécution et qui transforme chaque événement en prétexte à la violence. Ce qui intéresse cette extrême gauche, au fond, ce n'est pas de faire gagner un projet politique de manière démocratique. Ce qui l'intéresse, c'est de faire sécession. Elle ne voit pas dans l'opposition des adversaires politiques, elle voit surtout des ennemis à abattre. Voilà, chers collègues, voilà le vrai visage du fascisme en France. Cela fait des années, monsieur le ministre, que nous vous alertons sur ce danger qui nous guette. Mais cela fait des années que vous banalisez l'extrême gauche. À force de lui servir de caution et même de vous allier avec elle, vous avez de ce fait validé son idéologie dangereuse pour la République.
Bruno Clavet, il a 36 ans, il a été chargé de communication à la mairie d'Hénin-Beaumont. En 2009, il a été candidat à la télé-réalité Télécrochet, plutôt X-Factor, sur W9 avec son groupe qui s'appelait Parole d'un soir. Il a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 avant de voter Marine Le Pen. En 2012, il a rejoint le FN la même année. Il a été candidat à l'élection municipale à Lens cette année, mais il a perdu face aux socialistes. Il pose une question sur l'extrême gauche qui est violente.
Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous avez raison, sans doute, de souligner que la campagne s'est déroulée dans un climat qui était assez délétère, le Premier ministre l'a rappelé. On a eu beaucoup de faits qui ont été judiciarisés. À date, on en dénombre 130 et le chiffre augmente malheureusement encore dans le recensement que fait le ministère de l'Intérieur. Oui, la campagne n'a pas été simple. Il y a eu de nombreuses réunions publiques qui ont été perturbées aussi. Il y a eu des réunions du Rassemblement national, mais pas seulement. Il faut aussi savoir reconnaître que certaines réunions de la France insoumise ont été aussi perturbées par des militants d'extrême droite. Et moi, le ministre de l'Intérieur que je suis, il n'est pas favorisé à un camp plutôt qu'un autre. Moi, je lutte contre toutes les formes de violence, qu'elles viennent de l'ultra-droite, qu'elles viennent de l'ultra-gauche. Que les choses soient claires et qu'elles soient dites. Concernant la protection des élus, nous avons un dispositif qui protège les élus. Vous l'avez cité vous-même, je n'y reviens pas. Vous m'interrogez sur la question de la protection des élus pendant la campagne. Nous avons mis en place des mécanismes de protection pendant les campagnes. Je parlais des réunions publiques à l'instant, mais pas que. Il y a un certain nombre de candidats, une dizaine certes, mais qui ont demandé et bénéficié d'une protection avec une sécurité qui a été remboursée et qui pouvait être prise en compte dans le cadre des frais de campagne. Ça, c'est les mesures que nous avons concrètement mises en œuvre et qui sont devenues effectives. Concernant le reste du débat public, évidemment, comme vous, je regrette la montée en tension de ce débat public, cette forme de radicalisation. Mais pardon, monsieur le député, vous ne pouvez pas l'imputer qu'à l'extrême-gauche. Ça n'est pas possible. Il y a une radicalité dans le débat qui est l'apanage de bien des formations extrémistes, des formations de l'ultra. Et le ministre de l'Intérieur que je suis combat les deux formes de radicalisation, qu'elles viennent de l'ultra-gauche ou qu'elles viennent de l'ultra-droite. En tout cas, d'une manière générale, comptez sur nous pour continuer à assurer la protection un des élus de la République.
Il ne peut plus dire extrême-gauche depuis qu'il a mis LFI à l'extrême-gauche. C'est ça le truc ?
À s'appliquer avec...
Du coup, il dit ultra.
De boutons d'alerte qui sont importants pour les élus. Et évidemment, à protéger l'ensemble des élus et des conseillers municipaux au quotidien dans le cadre des réunions et sur le terrain. Voilà, nous serons présents. C'est le prix de la protection de la démocratie et nous répondrons présents.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Fabrice Roussel pour le groupe socialiste.
Fabrice Roussel, merci, député de Loire-Atlantique.
Madame la présidente, ma question s'adresse à madame la ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Madame la ministre, chaque jour, sans le savoir, les Français, nos enfants, ingèrent du cadmium à travers les aliments les plus banals. Pain, céréales, pâtes, pommes de terre. Une contamination invisible qui commence dès le plus jeune âge et s'accumule tout au long de la vie. Depuis plus de 15 ans, les travaux de l'ANSES sont constants et alarmants. Les chiffres sont sans appel. 23 à 27% des enfants dépassent la dose journalière tolérable. Et près d'un Français sur deux présente aujourd'hui des niveaux préoccupants de cadmium dans l'organisme. En 2026, l'ANSES confirme que ces dépassements persistent. Autrement dit, nous exposons une génération entière à un métal lourd cancérogène. Face à cela, les recommandations sont claires. Agir immédiatement à la source, plafonner les apports et transformer nos pratiques agricoles. Et aujourd'hui, que propose le gouvernement ? Alors que l'Europe a déjà fixé une limite plus stricte pour les engrais phosphatés, il suggère de rester à un niveau plus élevé, avec une baisse très progressive, étalée sur plusieurs années, pour arriver peut-être à 20 mg par kilo en 2038 et encore sous réserve d'une étude d'impact. 2038, madame la ministre. Encore plus de 10 ans d'exposition pour nos enfants, encore 10 ans d'accumulation dans nos sols, encore 10 ans de contamination évitable. Nous ne sommes pas face à une incertitude scientifique, nous sommes face à une urgence sanitaire. Et vous, vous persistez dans la lenteur, là où chaque jour appelle à une décision immédiate. Alors, madame la ministre, je vous pose une question simple. Le gouvernement va-t-il enfin accélérer et appliquer dès maintenant les recommandations de l'ANSES ?
Fabrice Roussel, député de Loire-Atlantique du côté de Nantes. Il a 52 ans, il est prof d'économie dans un lycée professionnel à Ancenny. Il a été militant socialiste depuis les années 90. Il a été maire de la Chapelle-sur-Erdre, une commune de la métropole nantaise. Il est proche de Johanna Roland, la maire de Nantes. Et il pose une question sur le scandale du cadmium.
Madame la présidente, monsieur le député Roussel, vous avez raison, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est très clair. Les Français sont aujourd'hui trop exposés au cadmium, un métal lourd, toxique et cancérogène. L'ANSES montre que cette exposition est principalement alimentaire et qu'une part significative de la population dépasse les seuils sanitaires. Elle peut avoir des effets sur la santé et appelle donc à la vigilance sur les risques à long terme, ce que nous prenons en compte. Cette situation peut s'expliquer, vous l'avez dit, par une contamination diffuse et ancienne des sols agricoles, notamment liée à l'utilisation de certains engrais. Face à ce constat, le gouvernement agit avec ma collègue la ministre de l'Agriculture avec détermination, en s'attaquant directement à la source du problème. Nous allons prendre plusieurs mesures réglementaires, un renforcement des contrôles et de la transparence sur les engrais, des règles plus strictes pour leur mise sur leur marché et leur utilisation,
une limitation des apports de cadmium dans les sols agricoles et la fixation d'un plafond sur la teneur en cadmium des engrais. Surtout, nous engageons une trajectoire, vous l'avez dit, ambitieuse. Les niveaux autorisés seront abaissés. Nous passerons de 60 mg par kilogramme aujourd'hui à 20 mg par kilogramme à terme. L'ensemble de cet arsenal réglementaire, aujourd'hui même, est en cours d'examen au Conseil d'État et sera publié dès la sortie du Conseil d'État. Par ailleurs, je voudrais rappeler aussi que les fumeurs ont des niveaux entre 2 et 3 fois plus élevés que les non-fumeurs. Et vous savez, notre engagement à lutter contre l'intoxication tabagique, nous devons poursuivre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Nosbé pour le groupe La France Insoumise.
Sandrine Nosbé, députée de l'Isère.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre du Logement, arrêtez cette chasse aux pauvres. Aujourd'hui, la trêve hivernale prend fin et des milliers de personnes vivent dans l'angoisse de se retrouver à la rue. À cette date, l'année dernière, à Fécamp, un homme de 76 ans s'est suicidé lors de son expulsion. Ce drame n'a évidemment pas ralenti le couperet de vos expulsions. 30 500 ménages ont été expulsés de leur logement en 2025, un nouveau record. 912 personnes sont mortes de la rue en 2024, 400 de plus qu'en 2017, dont 31 enfants de moins de 4 ans. Alors que plus de 3 millions de logements sont vides dans notre pays, 20 000 personnes sont exposées à ce danger toutes les nuits, dont plus de 2 000 enfants. Ce sont là les résultats des choix budgétaires de la Macronie, soutenus par la non-censure du Parti socialiste. 800 millions d'euros en moins dans le budget de 2026 pour le logement. 4,3 milliards d'euros de coupes dans les APL depuis 2017. Votre politique a plongé plus d'un sixième de la population française dans le mal-logement. Pire, votre politique du logement est raciste. Vous avez supprimé les APL pour les étudiants étrangers hors Union européenne non boursiers. Une mesure inspirée du programme du Front National, applaudie par le Rassemblement national. Et vous avez tenté d'exclure les personnes en situation administrative irrégulière de l'hébergement d'urgence. Un droit fondamental. Des mesures sont pourtant immédiatement applicables pour que personne ne dorme dans la rue et pour améliorer la vie de millions de nos concitoyens et concitoyennes. Réquisitionner les logements vacants, interdire les expulsions sans relogement, encadrer les loyers à la baisse sur tout le territoire.
Sandrine Nosbé, députée de l'Isère, elle a 53 ans, elle a été responsable des ressources humaines, elle était gestionnaire de paye, elle est native de la Réunion, elle a quitté l'île après avoir obtenu son bac, elle a vécu en France, en Angleterre et en Allemagne avant de s'installer en Isère. Elle est engagée à la France Insoumise, candidate en 2022, elle est finalement élue en 2024. Et je rappelle que c'est ce soir la fin de la trêve hivernale et que donc les expulsions locatives vont pouvoir reprendre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, j'avais prévu de vous expliquer point par point les éléments du plan logement que nous portons avec le gouvernement. J'avais envie de vous dire que le logement de l'hébergement d'urgence, même si évidemment il est toujours insuffisant, il est plus haut qu'il ne l'a jamais été, et donc que ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé ont bien pris conscience de la difficulté. J'avais prévu de vous parler du plan pour augmenter le nombre de logements dans notre pays, qu'il s'agisse de logements libres ou bien de logements sociaux. J'avais prévu de vous parler de tout ce que nous mettons en place pour accompagner les familles en difficulté, pour que justement elles ne se trouvent pas dans une situation d'impayé. Et je souhaitais rentrer dans le détail de toutes les mesures que nous faisons aussi pour protéger les propriétaires, qui bien souvent sont des propriétaires modestes et qui ont aussi éminemment besoin du loyer pour pouvoir vivre décemment et profiter du bien qu'ils ont légitimement acquis. Mais sincèrement, vous nous coupez l'envie de vous répondre quand vous vous permettez, Madame la députée, de nous traiter de racistes. Vous osez évoquer que ce gouvernement pourrait avoir une politique raciste. Et ensuite, vous vous étonnez de l'hystérisation du débat politique. Et ensuite, vous vous étonnez des violences et du climat terrible. Honte à vous! Honte à vous! Ce qui est excessif est insignifiant. Aujourd'hui, Madame la députée, par votre question, vous rendez insignifiante la politique.
Merci, Monsieur le ministre.
Vincent Jeanbrun qui a décidé de monter dans les tours.
Le gouvernement est terminé.
Pour la dernière question.
La séance est suspendue pour quelques minutes. Merci à tous.
C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Les députés vont profiter d'une suspension de séance pour se dégourdir les jambes avant de revenir dans l'hémicycle pour reprendre leur travail. travail. Fin de cette séance de questions d'actualité au cours de laquelle on a parlé des prix de l'essence, on a parlé du racisme dont ont été victimes des élus aux élections municipales, notamment sur CNews. Hein. D'ailleurs, la chaîne CNews a été évoquée directement par le ministre de l'Intérieur pour faire référence à des séquences qui ont beaucoup tourné, où on a vu notamment le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, être insulté. Clairement, des insultes racistes. Hein. Et... Tac, on a parlé des prix de l'énergie, on a parlé de la protection de l'enfance et du périscolaire en lien avec le scandale à Paris. À quoi ça sert les questions au gouvernement ? Les questions au gouvernement, c'est une séance de contrôle de l'action du gouvernement. Les députés, les élus du peuple contrôlent ce que font les gens qui nous gouvernent, les membres du gouvernement. Et pour faire ce contrôle, ils ont plein de techniques possibles. Ils ont des questions écrites, ils ont des contrôles sur site, contrôles sur pièce, commission d'enquête, mission d'information, audition. Et puis, il y a la séance des questions au gouvernement, voilà, qui sert à poser des questions courtes sur des sujets d'actualité. À force de regarder ces séances, j'ai quand même l'impression que la façon dont notre Parlement décide est très peu productive. J'ai pas la vision sur les coulisses, mais ça m'a pas l'air très agile quand même. La méthode de prise de décision la plus productive, pour reprendre ton mot, c'est la dictature. Hein. Non mais je veux dire, il y a un moment, oui c'est vrai, si on n'avait pas de parlement, il n'y aurait pas de parlementarisme, il y a un mec qui décide et puis on ferme nos gueules. Ça c'est de l'agilité, ça c'est de l'efficacité. Et encore quand je dis ça... Il y a 2-3 historiens qui pourraient faire remarquer que les dictatures n'étaient pas franchement des régimes efficaces. C'était même souvent le bordel. La technostructure, etc. Je veux dire, ça existe aussi dans les dictatures, c'est pas... Voilà. Il y a quelque chose entre les deux. Non mais c'est... Vous venez de regarder une séance de questions. Vous venez pas de regarder une séance législative. Là, rien n'a été décidé, rien n'a été voté. Vous avez pas vu les députés lever la main pour adopter des trucs. Hein. C'est une séance de contrôle. Ça sert à contrôler. C'est pas productif. On fabrique rien. C'est un peu comme un entretien d'évaluation d'un salarié. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Sinon, on le ferait pas. Mais c'est le salarié, il passe pas son temps à produire. Il est dans un moment de contrôle. Il fait le point avec son manager. Là, c'est pareil. Le manager, c'est-à-dire l'Assemblée, fait le point avec son salarié, c'est-à-dire le gouvernement. Voilà. Et par ailleurs, ils vont prendre des décisions. Et n'hésitez pas, mais vraiment foncez, hein, à aller regarder les séances législatives en commission et en hémicycle. Vous allez voir, ça produit, hein, ça bombarde de l'amendement. Hein. Ils adoptent des centaines d'amendements par jour et tout. Là, la prise de décision, c'est... Est-ce que le sens de la vie, c'est la productivité ? Oui, non, mais c'est... Par ailleurs, c'est probablement parce que je suis démocrate. Alors forcément, en tant que démocrate, je suis quand même assez soucieux des droits de l'opposition, de la possibilité de prendre la parole, de s'exprimer, la place qui doit être laissée à la vie minoritaire, etc. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps, qu'on a l'impression que ça génère de la chaleur pour rien. Mais la démocratie, ça nécessite ça. Voilà. La France n'est pas dirigée par un conseil d'administration. Elle est dirigée par un gouvernement, elle est dirigée par un parlement, elle est dirigée par des collectivités locales. Il y a aussi la démocratie sociale qui prend des décisions de son côté avec les partenaires sociaux. Tout ça, c'est des réunions, c'est des prises de parole, c'est des... Voilà. Notre Parlement consacre-t-il du temps à épurer les lois qui se superposent et qui sont obsolètes ? Il ne fait que ça. Il fait que ça. Le Parlement, il adopte des nouvelles lois pour remplacer les anciennes. les conseils d'administration, c'est sans doute un des groupes les moins productifs, factuels et respectueux de la raison. Oui, les conseils d'administration, c'est pas non plus... Oui. Pourquoi encore des QAG le mardi mais aussi le mercredi? Bah parce qu'il y a deux séances par semaine. Une le mardi, une le mercredi. Parce que les députés ont beaucoup de questions à poser. À mon avis, ils pourraient en rajouter une troisième, ça leur ferait plaisir. Hein. Les députés, les connaissant, il n'y a jamais trop de questions posées au gouvernement. Hein. Comment on répond à une personne qui dit qu'on produit tellement de lois qu'elles ne sont jamais appliquées? Bah, on lui donne rendez-vous dans un tribunal. C'est là qu'elles sont appliquées. Comment est-ce que les lois sont remplacées? Est-ce qu'elles sont annulées, modifiées, amendement par amendement? Non, les lois sont réécrites. Donc on efface tout un pan du code des collectivités territoriales, par exemple, pour le remplacer par un nouveau pan qu'on a réécrit, pour mieux coller aux attentes d'aujourd'hui. On promulgue une nouvelle loi qui remplace l'ancienne, qui crée un nouveau régime juridique qui remplace l'ancien. Est-ce que j'ai raison de voir les questions transmises à la TV comme un théâtre politique où chacun campe sur ses positions et où les oppositions font du storytelling? Les oppositions font du storytelling? Ça voudrait dire que la majorité ne le fait pas, ce serait pas très honnête. Enfin, tu peux voir ça comme un théâtre. Enfin, je veux dire, un théâtre, pardon, hein, mais un théâtre, c'est un espace dans lequel les gens vont jouer un rôle. Voilà, les gens vont faire semblant. Ils vont jouer des personnages et tout. Là, ce que vous venez de voir, c'est une télé-réalité, c'est pas un théâtre. Les gens font pas semblant. Hein. Les députés posent des questions importantes, vraiment importantes, sur des sujets qui leur tiennent à cœur, sur lesquels ils veulent que le gouvernement avance, fasse des annonces, sur lesquels ils vont par la suite avoir l'occasion de travailler dans un travail législatif. C'est pas fake. Hein. C'est même plus de la télé-réalité que la télé-réalité. Il y a vraiment des caméras dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on fait plus de remplacements d'anciennes lois ou est-ce qu'il y a aussi des lois qui touchent des sujets radicalement nouveaux? Non, mais il ne faut pas que vous voyez les choses en manière quantitative. Une loi, ça ne veut rien dire, déjà. Une loi, ça peut contenir une centaine d'articles, des milliers d'articles. Pour le budget, par exemple, une loi, ça peut contenir un seul article. L'abolition de la peine de mort, par exemple, je crois qu'il y avait un ou deux articles. Voilà. Donc, en fait, ça dépend de quel sujet on parle, ça dépend de quoi on part, ça dépend quel est l'état actuel du droit, ça dépend ce qu'on veut changer dans le droit. Parfois, il suffit de changer des paramètres dans les lois pour faire changer beaucoup de choses. Parfois, il faut réécrire de fond en comble. Parfois, il faut légiférer sur des domaines complètement nouveaux, des trucs qui n'existaient pas avant. En tout cas, le droit ne prévoyait pas les situations. Il se trouve que les situations se sont présentées, donc maintenant, on vote une loi pour tenir compte de la nouvelle situation, etc. Donc voilà, une loi n'est pas égale à une autre. Un seul article peut faire couler de beaucoup d'encre. Oui, bien sûr. Un article de loi peut permettre à envoyer quelqu'un en prison pendant 20 ans. Un autre article de loi peut juste prévoir un régime d'exception mineure pour des agriculteurs dans les départements, qui, les machins, etc. Voilà. On ne peut pas comparer les lois comme ça. C'est pas une ligne de code égale une autre ligne de code. D'ailleurs, c'est un mauvais exemple que j'utilise parce qu'un développeur vous dirait qu'il y a des lignes de code qui peuvent tout changer et d'autres lignes de code qui font des modifications mineures très secondaires. Donc voilà, c'est un peu comme dans le code. Quel texte de loi a le moins de mots ? Bah, dans la hiérarchie des normes, si tu regardes, pardon, mais la norme la plus importante du droit français, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lue, mais elle est très très courte. Hein. Pas beaucoup de mots. Mais par contre, ça dit des choses puissantes. Ça dit des choses qui créent l'architecture globale de notre droit, de notre République, de notre pays, de notre État, etc. Voilà. Tu ne tueras point. Oui, voilà. Ah oui, les 10 commandements. Bah voilà, les 10 commandements. 10 commandements, pas beaucoup de mots. Hein. Pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails. Il n'y a pas eu beaucoup d'amendements. Autrement dit, Dieu, il ne s'est pas fait chier. Attention, les développeurs vont te dire que la loi devrait être du code. Mais j'en ai rien à foutre. Enfin, on peut si on veut, à condition qu'elle soit votée démocratiquement, c'est tout ce que je veux. C'est que la loi soit le fruit de la démocratie. Je veux que la loi soit le fruit d'un processus démocratique. Avec une majorité, des oppositions, avec des points de vue, avec des batailles d'amendements, avec des votes, avec des décisions. Voilà. Et encore une fois, le dictateur seul dans son bureau qui a écrit la loi, non merci. Pas, non, vraiment pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis par ailleurs, je veux que la loi... elle soit appliquée par des juges, par des magistrats, suivant une méthode, une procédure précise qui garantit les droits de la défense, qui garantit l'indemnisation des victimes, qui garantit, qui protège. C'est... Voilà, pareil, je veux pas d'une loi appliquée par une milice autoritaire sous le contrôle du gouvernement, non. Ah non, non, moi je veux des magistrats indépendants qui appliquent les lois. Si la loi du code était vibe codée et personne ne la comprendrait, oui. Ouais, le vibe coding pour la loi, ouais. Mais enfin, techniquement, je vais filer la métaphore parce que le vibe coding, d'un certain point de vue, c'est un peu ce que t'as dans les projets de loi du gouvernement. Merci Pistelu. Le ministre donne une impulsion politique. Le ministre donne un objectif politique, puis les services du ministère, qui sont remplis de juristes, de professionnels, d'experts, voilà, vont bosser pour traduire la volonté politique du ministre dans un projet de loi. Et c'est ensuite ce projet de loi que le ministre va venir défendre à l'Assemblée nationale devant les députés, et les députés vont faire leur travail d'amendement. Donc c'est bien cette analogie parce que ça me permet d'insister sur l'importance du travail politique. Les ministres sont des politiques, ce ne sont pas des hauts fonctionnaires, gestionnaires de ministères ou je ne sais quoi. Non, eux ils sont là pour donner une impulsion. Ils sont là pour faire de la politique, pour fabriquer de la politique publique. Ensuite, dans le ministère, il y a tout ce qu'il faut, comme costard cravate, qui va faire le taf, qui va écrire, qui va traduire, qui va remonter des points d'alerte au ministre en lui disant attention, parce que si on fait ça, là, on va avoir ça comme problème, donc il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à un dispositif qui permet de machin et tout. Voilà. Ça, c'est du travail de préparation d'un projet de loi pour un ministre. Dont très anciennement un certain Jean Massier. Ouais, ça a été une partie de ma vie quand j'ai fait ce genre de boulot-là. Je travaillais pas sur le volant législatif, mais je vois très très bien comment ça fonctionne. Je vois très très bien comment ça fonctionne. Et à la fin, il y a le Premier ministre qui fait des arbitrages. Quand t'as deux ministres qui proposent des choses qui sont contradictoires ou qui se marchent dessus, c'est le Premier ministre qui arbitre et qui s'engueule avec ses ministres. Mais ça, c'est le jeu. Ça, c'est... tu te démerdes. Ce sont les mêmes hauts fonctionnaires qui travailleraient avec le RN s'il arrive au pouvoir, sinon manque de qualification. Bah écoute, ils prendront leurs décisions, les hauts fonctionnaires, à ce moment-là. Si le RN arrive au pouvoir, il y en a peut-être qui vont demander leur mutation pour pas bosser pour le RN. C'est possible. Dans la haute fonction publique, c'est assez fréquent. Et c'est assez sain, d'ailleurs, je trouve. Un haut fonctionnaire qui a travaillé depuis 10 ans à mettre en place, articuler une politique publique donnée, je comprends que si jamais il y a une alternance politique, il a envie de se casser. Dire bah non, je vais pas rester, moi je vais pas rester, hein. Donc de toute façon, s'il reste pas, il va se faire dégager. C'est aussi l'autre solution. Ça peut arriver vite. Mais du coup, s'il est muté, il reste dans l'administration de la politique qu'il aime pas ou il se barre dans le privé. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui demande un poste, hein. C'est lui qui postule pour un poste, c'est lui qui décide, hein. C'est pareil pour les fonctionnaires territoriaux. Ouais, c'est pareil pour les fonctionnaires territoriaux. Là, il y a eu des élections municipales. Je suis sûr qu'il y a plein de directeurs généraux des services qui vont changer. C'est normal. T'as accompagné une équipe municipale pendant 10 ans, 15 ans. Les gens ont voté pour changer l'orientation politique de la collectivité. Tu peux rester quelques mois le temps de faire le tuilage des dossiers, mais après, tu peux avoir envie de te barrer, hein, c'est normal. On reproche à LFI de laisser partir des policiers municipaux, mais étrangement, quand le RN va purger toute la fonction publique, ça va pas broncher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pareil pour les fonctionnaires, les policiers municipaux qui veulent pas bosser dans une mairie LFI, t'as le droit de demander ta mutation. Hein. Si tu veux plus bosser dans cette ville, va dans une autre ville. Et si c'est juste le fait d'avoir une arme à feu qui te... Chafouine, ça peut poser des questions sur ton engagement, mais ça, c'est ton problème. Il faut pouvoir retrouver un poste. Ah, bah, faut pouvoir retrouver un poste. Ça, les mutations, la mobilité dans la fonction publique territoriale, c'est pas évident pour tout le monde, c'est sûr. Après, il y en a peut-être qui recrutent plus que d'autres, hein. Ça fonctionne comment, les mutations ? Tu fais juste une demande ? Alors moi, j'ai jamais été fonctionnaire, donc j'ai jamais pratiqué moi-même. Mais oui, les mutations, tu demandes à ton supérieur, tu fais une demande de mutation à ton supérieur hiérarchique, et ensuite tu vas postuler pour des postes qui sont ouverts. Il y a des sites internet de la fonction publique, hein, qui montrent où les postes sont disponibles. et tu te positionnes sur un poste. Et puis si tu as assez de points, parce que oui, tu as un système de points, effectivement, tu peux avoir le poste. Enfin bref, tout ça est organisé. C'est le statut de la fonction publique. Hein, c'est... c'est pas censé être un dû de la fonction publique aux fonctionnaires, les relocalisations. Non, c'est un droit, c'est pas un dû. Bah non, tu peux... Non, mais non. S'il n'y a pas de poste disponible, il n'y a pas de poste disponible. Il y a beaucoup d'enseignants qui demandent leur mutation dans le sud. Ah bah oui, le soleil. Bah oui, c'est les postes les plus demandés. Hein. Non mais c'est... Vous vous souvenez du film Bienvenue chez les Ch'tis ? Bah voilà, c'est... alors là c'était une mutation disciplinaire, c'est encore autre chose. Mutation disciplinaire. Mais voilà, il n'y a pas grand monde qui demande le nord, il y a plus de monde qui demande le sud. Quand je dis ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens du nord qui veulent des mutations dans le nord, et... enfin bref. En général, tu postules, tu passes un entretien, et si ça marche, tu demandes ta mutation. Ouais, dans la territoriale, c'est dans ce sens-là que tu fais, ouais. Tu trouves un poste d'abord, et si ça le fait, tu demandes ta mutation, et tu croises les doigts pour l'obtenir. Après, il y a un délai de mutation, ça se fait pas tout de suite, hein, évidemment, le temps que le service se réorganise et tout. Et puis, il y a aussi les détachements, c'est-à-dire que tu peux demander ton détachement dans une autre fonction publique. Fonctionnaire de la territoriale peut se retrouver à bosser pour l'État. Voilà. Alors alors vraiment, je suis pas un spécialiste. Hein. Je suis enseignante originaire de La Réunion et j'ai été affectée à Creil sans qu'on m'ait demandé mon avis. Pouvoir avoir une région particulière, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Ça dépend aussi du temps que tu as passé dans la fonction publique. Moi, je me souviens des enseignants qui bossaient pendant des décennies dans une ville qu'ils n'aimaient pas en se disant « T'inquiète, je mets des points de côté pour obtenir ma mutation et finir ma carrière près de ma famille, dans le sud ou ailleurs d'ailleurs. » Voilà, il y a des gens qui attendent leur mutation, qui attendent tranquillement. Il y a des barèmes, il y a des... Bon. C'est sûr, si tu es jeune fonctionnaire et que tu viens d'arriver et que tu demandes ta mutation, c'est possible que tu ne puisses pas l'obtenir. Surtout pour des postes très demandés, des régions très spécifiques et tout. Il y a des bonus avec le mariage, les enfants et tout. Ouais, il y a des bonus avec le mariage. D'ailleurs, tu peux demander une mutation pour regroupement familial. Par exemple, pour déménager à côté, enfin, aller t'installer avec ton mari ou ta femme. Dans une région où il ou elle travaille. Je crois même qu'il y a des facilités particulières pour les femmes de militaires. C'est beaucoup des femmes, il y a aussi des hommes. Pour suivre les mutations militaires, machin, tu peux demander une mobilité pour suivre ton mari en fonction de là où il est, la base militaire, le truc, le machin. Mais je vous avoue que je ne sais plus comment ça marche. Hein. J'ai pas du tout le détail. Il y en a probablement dans le chat qui savent mieux que moi. Il y a la technique du PAX qui est assez utilisée désormais. Oui, la technique du PAX, oui, oui c'est vrai. Oui, oui. Alors, il peut arriver que des enseignants se paxent, pas par amour, mais pour obtenir une mutation plus facilement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je parle des enseignants parce que c'est l'exemple que je prends, mais ça doit exister dans d'autres corps de la fonction publique. Il y a également des gros bonus si tu as enseigné pendant 5 ans dans une zone de prévention violence, ouais, ainsi que la montée plus rapide des échelons. Oui, tu as raison, et je me souviens aussi qu'il y avait aussi une volonté du ministère de permettre aux enseignants de rester dans les établissements prioritaires avec des systèmes de bonification des échelons. C'est un truc où, pour éviter la fuite des enseignants qui connaissent bien les établissements, qui connaissent les élèves, qui connaissent les territoires, etc., le ministère disait, si vous restez 3-4 ans de plus, vous avez un bonus de paye. Et c'était une mesure incitative pour leur dire, demandez pas votre mutation, restez, on a besoin de vous, vous faites du bon travail, on a envie que vous restiez, etc. Et je crois que c'était pareil aussi pour les départs à la retraite. Les enseignants Alors, la plupart des enseignants qui sont proches de la retraite, qui ont déjà 30 ans de boutique derrière eux, il n'y en a pas beaucoup qui ont très envie d'aller enseigner en éducation prioritaire. Et ils attendent la quille, et ils disent non, je suis dans un établissement peinard, je suis bien là où je suis, j'ai pas, voilà. Et du coup, je crois que le ministère avait là aussi mis du pognon sur la table en disant, si vous voulez finir votre carrière, donc vos 5 dernières années par exemple de carrière, si vous voulez les finir dans un établissement prioritaire, vous avez un bonus de retraite qui vous sera accordé pour attirer dans les REP et les REP plus des enseignants qualifiés, enfin qualifiés qui ont de la bouteille, etc. Il y a des points aussi pour les gens des DOM qui veulent rentrer, si je me souviens bien. Oui, alors absolument. Dans la fonction publique, il y a des règles spécifiques pour les territoires d'outre-mer pour créer des liens entre l'Hexagone et l'outre-mer, pour permettre plus facilement aux personnes d'outre-mer d'aller travailler en Hexagone, puis une fois que tu as bossé en Hexagone, de revenir bosser en outre-mer. Il y a des règles spécifiques qui sont liées pour faciliter la mutation, pour faciliter le fait de faire venir, d'envoyer aussi, etc. Ça, c'est spécifique à la fonction publique. Ouais. Pareil pour les congés. Si tu travailles dans l'Hexagone et que tu es originaire d'outre-mer, tu peux poser des vacances plus longues. Enfin, en gros, tu peux calculer différemment ton nombre de jours de RTT, de congés et tout, pour pouvoir poser une période pendant laquelle tu vas rentrer. Vu que c'est loin et vu que tu dois prendre l'avion, etc., tu retournes dans ta famille et tu y restes 2 mois avant de revenir et de reprendre le travail. Est-ce qu'on fait l'audition de Patrick Sébastien et de Drucker? Non. Non, je vais... Enfin, je... La commission d'enquête sur l'audiovisuel public, elle sert à détruire l'audiovisuel public. Et elle se galvanise de l'audience qui est réalisée. Enfin... Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Puis en plus, j'aurais rien d'intéressant à vous dire, donc... La commission, ça a été approuvé par qui? Ça a été approuvé par personne, ça a été demandé, comme c'est de droit, par l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Alors que c'est vrai que ça aurait pu être intéressant comme commission. Non mais c'est tout, peut être intéressant. La réflexion sur l'audiovisuel public peut être intéressante, mais... Là, enfin, la destinée politique du truc est quand même assez grosse. Il y a une volonté affichée de détruire l'audiovisuel public, de l'humilier, de la mettre en difficulté, de la mettre sous pression. Enfin, c'est... Ça choque personne au gouvernement qu'il soit très orienté extrême droite, cette commission, ça sera soumis à un vote de conclusion, c'est ça? Alors, le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. Voilà, le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif, il est indépendant du pouvoir législatif qui fait ce qu'il veut. Le gouvernement n'a pas son mot à dire, et heureusement, sur le travail des députés, sur les commissions que font les députés, sur les sujets sur lesquels ils enquêtent, etc. Et à la fin, le rapport du rapporteur de la commission, Charles Alloncle, va être soumis au vote de la commission. C'est une commission pour des séquences TikTok. Bah, en tout cas, c'est l'usage qui en est fait, oui. Charles Alloncle est devenu, grâce à cette commission et à son rôle de rapporteur, il est devenu une superstar à l'extrême droite. Il est invité sur tous les plateaux, et on lui tresse des lauriers, tout le monde sait comment il s'appelle, qui il est, alors que c'était un relatif inconnu jusque-là. Je ne comprends pas pourquoi cette commission est mauvaise quand d'autres sont bonnes juste parce qu'elles collent plus à votre bord politique. Ce n'est pas le but de la démocratie de traiter tous les sujets. Si, et c'est le but de la démocratie que d'avoir une opinion sur les sujets traités. Est-ce qu'il pourrait être poursuivi pour avoir donné lieu à plusieurs situations de harcèlement ? Ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Il ne peut pas être poursuivi dans le cadre de son exercice parlementaire. Non, ça non. Bah non, heureusement d'ailleurs. Il est libre de ses opinions. C'est surtout la tenue de la commission le problème. Mais c'est le but politique poursuivi par la commission. Affaiblir l'audiovisuel public. Mais pour des personnes qui détestent l'audiovisuel public, je peux comprendre que ce soit une excellente commission. Hein. Oui, de fait. Mais pour des personnes comme moi qui sont attachées à l'audiovisuel public, je considère que c'est un dévoiement du travail parlementaire dans un but politique affiché, qui est d'abattre un adversaire. Donc, il a de rendre de compte à personne, sinon à l'opinion publique. Oui, à ses électeurs. Après, c'est pas normal que l'audiovisuel public, ça soit pro-LFI et pas neutre. Ah ouais. Ben non, effectivement. Si c'était le cas, ce serait très grave. Quant à la neutralité, pardon, mais s'il vous plaît. Non. Courage Jean, t'arrives sur le meilleur com. J'arrive sur le meilleur com, salut Lula. Ouais, non, je sais pas, c'est... Non, c'est... On a le droit d'avoir une opinion sur une commission d'enquête, et on a le droit de respecter le fait que des commissions d'enquête soient issues de droits de tirage. L'audiovisuel public, on parle de France TV ou rien à voir. Si, si, on parle de France Télévisions, on parle de Radio France, on parle de France Média Monde, France 24. C'est ça l'audiovisuel public. Arte ou pas ? Arte ne fait pas partie du groupe France Télévisions. Arte est une chaîne qui a son statut à part, qui a un statut spécifique. Ça fait partie de l'audiovisuel public parce que c'est financé par de l'argent public, mais ça ne fait pas partie du groupe France Télévisions. C'est autonome, c'est indépendant, Arte. Arte, c'est européen. Arte, c'est franco-allemand. Arte, c'est franco-allemand. C'est une coopération entre la France et l'Allemagne. LCP non plus. Ah non, LCP, c'est encore autre chose. LCP et Public Sénat sont deux chaînes de télévision qui sont propriétés exclusives de l'Assemblée nationale et du Sénat. Rien à voir avec, avec France Télévisions, Radio France, c'est complètement indépendant. France 24, c'est aussi France Télévisions. France 24 ne fait pas partie de France Télévisions. France 24 fait partie de France Média Monde avec RFI. C'est encore un autre groupe. L'enquête de Off Investigation est édifiante quant à la supposée neutralité de France TV. Ouais, faut vraiment qu'on arrête d'utiliser la notion de neutralité et la notion d'objectivité. Quand on a passé l'âge de 17-18 ans, il ne faut plus l'utiliser. On peut l'utiliser quand on est au collège, parce que là, il faut faire simple avec les enfants. Donc, on leur parle de neutralité des journalistes, d'objectivité de l'article, etc. Quand on passe le lycée, normalement, en cours d'histoire géo, on apprend ça quand même, on arrête de manipuler les notions d'objectivité, de neutralité. On parle d'angle de l'article, on parle de projet éditorial, de ligne éditoriale pour un média. On parle d'honnêteté de l'information, on parle de source. Vous voyez, on utilise d'autres notions qui sont plus précises, plus subtiles, mais qui ne renvoient pas à la neutralité ni à l'objectivité. Voilà, donc gardez ça en tête. La neutralité et l'objectivité, c'est pour les collégiens. Après, il faut changer de mot. Contradictoire. Oui, on parle de contradictoire, on parle de rigueur, on parle de faits, rapporter des faits, rapporter des opinions. Enfin, je sais pas. Vous avez eu des cours, vous, d'éducation aux médias ou pas? Est-ce que vous avez le souvenir, notamment au lycée, de cours autour de la notion de médias? Non, vous avez pas du tout eu ça? Même en cours d'histoire géo, vous vous souvenez pas de ça? Merci, Phoenix. Vous vous souvenez pas, en cours d'histoire, notamment, les profs d'histoire, ils utilisent beaucoup des coupures de presse, des archives télé ou radio. Et du coup, ils en profitent pour faire un peu de pédagogie sur... Non ? Pas du tout. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, si je peux vous sensibiliser. Alors moi, quand j'avais 17-18 ans, j'étais militant de la liberté de la presse. Donc j'ai donné des formations en droit et déontologie de la presse. Donc ça a toujours été plutôt mon truc et plutôt un domaine dans lequel je me suis engagé. Comment dire ouais, non, mais du coup, c'est intéressant. Ben, si je peux vous sensibiliser, voilà, dites-vous que la neutralité, l'objectivité, c'est des mots qu'on n'utilise pas. Voilà, personne, en fait, les utilise. C'est pas des concepts opératoires. Ou opérants, je sais plus comment on dit. C'est pas utile, c'est pas efficace, ça embrouille le cerveau des gens, ça... voilà. Si on en parle dans l'éducation nationale, les EMI. Ouais, les EMI, c'est l'éducation aux médias d'information. Performatif, c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des documents et des sources pour se cultiver sur le domaine ?
Oh !
Non, je sais pas, tu peux trouver en ligne, tu as des ressources sur le site sans doute du CLEMI, le centre de liaison de l'éducation et des médias d'information. J'ai été membre du COP du CLEMI, du comité d'orientation et de pilotage du CLEMI, il y a longtemps. Oh là, il y a longtemps. Tu vois, tu peux trouver des ressources du côté des sites pédagogiques, des trucs comme ça. Mais ouais, non, je vais pas vous faire un cours parce que j'ai pas le support, etc. Puis surtout que tout ça est un peu vieux pour moi, mais gardez en tête qu'une production journalistique, quelle qu'elle soit, et quel que soit le support, est toujours le fruit d'un travail, le fruit d'une volonté éditoriale, d'un angle éditorial, avec des biais qui sont naturels, qui sont normaux et qu'il ne faut pas chercher à cacher ni à... Voilà. Et puis que derrière une production journalistique, il peut y avoir une volonté de montrer quelque chose plutôt qu'autre chose. Ça, c'est un choix éditorial. Et c'est très bien. Tu peux faire une interview, tu peux faire un reportage, tu peux faire un documentaire, tu peux faire... Il y a plein de formalismes différents dans les choses journalistiques, et chacune a son intérêt, chacune a son utilité. Tu aimerais faire des cours en direct sur Twitch ? Ah non, jamais. Ah non, mais moi je donne pas cours. Ah non, non, non. Ah non, je préfère discuter avec vous. Ça m'intéresse beaucoup plus. Il me semble qu'à l'époque, on me parlait de ligne éditoriale, on nous montrait le JT de TF1 et de France 2 pour voir comment un même sujet pouvait être traité différemment. Mais bien sûr. Mais moi, j'ai fait ça en classe. Je me souviens, j'avais un prof qui nous montrait, on prenait la télé, on prenait des reportages de TF1, de France 2, de France 3 et tout, et puis on discutait. On discutait sur le traitement qui a été, sur les images qui ont été choisies, sur le temps qui a été passé, sur le nombre de personnes qui ont été interviewées, puis c'est les personnes qui disaient quoi, qui rapportaient quoi, etc. On notait les différences, etc. Voilà, ouais, moi, je me souviens avoir fait ce travail-là au lycée. Je me souviens qu'on avait aussi un cours sur l'image, sur le photojournalisme. Qu'est-ce que peut montrer une photojournaliste ? Qu'est-ce qu'une photo d'illustration peut montrer d'intéressant dans un travail journalistique ? Par exemple, alors moi je me souviens qu'on était en 2000... Putain, j'étais vieux. Hein. On était pendant la guerre en Irak. Et on avait regardé un reportage de Fox News. Un reportage de Fox News qui montrait des manifestants à Bagdad contre les Américains. Et il nous montrait une image notamment de manifestants qui cramaient un drapeau américain. Ils étaient en train de cramer un drapeau américain. Et il y avait des hommes comme ça qui étaient en train de gueuler et de se féliciter du fait que le truc était en train de cramer. Et notre prof nous avait dit, mais vous voyez combien de personnes sur l'image ? Effectivement, c'était un peu un plan serré, tu vois, on voyait 7 ou 8 gus, quoi. Et il nous disait, mais est-ce que c'est une manifestation, ça ? Est-ce que c'est une grande manifestation ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le peuple de Bagdad qui s'est levé ? Non, on a juste vu 7 mecs cramer un drapeau américain. Et puis un drapeau américain, c'est pas très facile de mettre la main dessus. En plus, c'est pas comme si ça s'achetait au coin de la rue chez Walmart. À Bagdad, c'est dur d'en trouver un. Donc du coup, en fait, là, ce qu'on a regardé, c'est une action, disons, militante, on va dire ça comme ça. C'est une action de quelques personnes qui ont voulu, devant une caméra, montrer un truc. Mais on peut pas en tirer la conclusion que c'est un soulèvement du peuple. Non. Non, c'est Saint-Gus, quoi. Voilà. Et voilà, et moi je me souviens de ce cours-là. Je me souviens de ce cours où notre prof nous avait montré ça, nous avait fait réfléchir, nous avait fait travailler sur l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ça nous informe? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça ne nous dit pas? Quelles informations il nous manque pour pouvoir en conclure des choses? Bon, ben voilà. Est-ce qu'on a d'autres informations dans d'autres médias? Non, on n'en a pas. Voilà. Et je crois qu'en plus, pour comparer, on avait regardé un reportage de France 24 qui montrait que les rues de Bagdad étaient calmes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que le peuple de Bagdad soutient les Américains. On ne peut pas en tirer cette conclusion-là, c'est pas vrai. C'est juste que non, ce jour-là, il n'y a pas eu des manifestations monstres contre les Américains. Il y en aura peut-être demain, il y en aura peut-être après-demain, on verra. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, voilà. L'émission Le Dessous des Images d'Arte est vraiment bien. Oui, l'émission Le Dessous des Images, elle est super. L'émission Le Dessous des Images est vraiment bien, ouais. Donc voilà. Donc l'importance de la multiplicité des angles, l'importance des regards croisés, des médias qui parlent avec des lignes éditoriales différentes, qui parlent d'un même sujet, bah, c'est intéressant de comparer, de regarder ce qu'ils racontent, comment ils perçoivent les choses, quel fait est-ce qu'ils rencontrent, etc. Et faire attention à ses propres biais à soi. Hein, chacun dans sa bulle informationnelle qui ne regarde que des informations qui confirment sa pensée, c'est pas non plus une bonne manière de s'informer. Je me souviens d'un cours au collège dans lequel on devait lire un article et savoir si l'info était vraie ou fausse, et c'était le Gorafi. Ah, c'est marrant ça. Ça c'est rigolo. Non, moi je me souviens, j'avais donné des formations où je disais aux gens écrivez un article neutre. Prenez un papier, un stylo et écrivez-moi un article neutre. Et ensuite, je les faisais relire l'article et je leur posais des questions. Et je leur montrais qu'en fait, leur article n'était pas neutre du tout. Ils avaient fait des choix. C'est très bien de faire des choix. Ça peut justifier. C'est neutre si j'écris rien? Ah non, c'est pas neutre. C'est un choix que t'as fait de ne rien écrire. Voilà. C'est une argumentation auto-alimentée, hein. c'est aussi bête que ça. Tout ce que tu fais est le fruit d'un choix. Il y a des bons choix, enfin, il y a des choix que tu peux faire pour bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'il faut dépasser la notion de neutralité pour aller chercher d'autres notions plus subtiles et plus complexes autour de la ligne éditoriale, du projet, de l'article. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Pourquoi? Qui t'a voulu informer? C'est à quel public que tu t'adresses? Tu veux leur dire quoi? Quelle information tu veux qu'il obtienne, etc. C'est super intéressant ces cours, ça me rappelle les cours les plus intéressants que j'ai pendant mes deux dernières années d'études. C'était un cours sur la sémiologie, l'analyse des images et des photos. Ouais, carrément. Ouais, la sémiologie, ouais. Mais c'est des cours super intéressants. Puis surtout, c'est des cours que... Enfin, moi, je ne donnais pas cours, encore une fois, je faisais des formations. C'est intéressant parce que ça se fait dans le dialogue. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi en discuter. On peut avoir des points de vue différents sur un article. Quelqu'un qui va trouver qu'un article est particulièrement honnête et bien fait et tout, puis quelqu'un qui va dire oui, enfin, moi je trouve que quand même, on aurait pu rajouter quand même ça, hein, ça aurait été plutôt pas mal. Bon, bah, voilà, c'est pas grave. On peut ne pas tout à fait être d'accord sur le truc, quoi. Pour être sûr, je ne consulte plus que des médias complotistes. On n'est jamais trop prudent. Ouais. J'ai vu qu'il y a des vidéastes qui font des vidéos sur YouTube pour parler du complotisme, de la méthodologie complotiste, de la méthode argumentative complotiste, cette manière de penser, cette manière d'écrire, cette manière d'articuler ses idées. C'est très spécifique, toujours orienté autour du fait de découvrir une vérité cachée parce qu'elle est toujours cachée, etc. Enfin, Ouais, ouais. Ça m'appelle aussi un dessin sur le cadrage ou comment on peut faire dire aux images l'inverse de ce qui se passe réellement. Ouais. Ah oui, bah la manipulation par l'image, oui, bien sûr, c'est un classique. Hein. Cette illusion de connaître un secret mondial. Ah oui, puis il n'y a que moi qui le connais en plus. Hein. c'est hyper sélectif. Ouais, c'est... Alors, je ne sais pas si je suis immunisé contre le complotisme. Je ne pense pas. Je pense que personne ne l'est et que les biais cognitifs sur lesquels s'appuie le complotisme sont des biais humains. Voilà, c'est tout. La duplicité des angles, c'est pas non plus le meilleur, car si tu n'es pas formé sur tel ou tel sujet, tu n'auras pas le recul pour avoir un avis pertinent dessus. Oui, mais c'est pas grave. Un avis, ça peut changer. Ça peut évoluer avec le temps, avec l'apport de nouveaux éléments, avec... Oui. Tu peux lire 2-3 articles sur un sujet et te dire « Ouais, je suis quand même pas satisfait de la situation. » Voilà, t'as le droit de dire ça, c'est bon, c'est une opinion. C'est pas l'opinion du siècle, t'es pas expert du sujet, mais t'as le droit d'avoir un avis. C'est comme les sectes, personne n'est safe. Oui, bien sûr, les dérives sectaires, il y en a beaucoup et dans plein de domaines différents. Et encore une fois, c'est des biais qui nous arrivent à tous. Et c'est naturel. Dave Shake a aussi fait une vidéo sur les gens qui ne croient pas aux dinosaures. C'est très intéressant que la réflexion des gens qui vont dans le sens de la théorie du complot. Ouais. Elle est très bien, la vidéo de Dave, sur les gens qui pensent que les dinosaures n'ont jamais existé. T'as même le droit d'être anti-nucléaire par trouille et de le post-rationaliser avec des arguments fallacieux. Oh, tu forces. Je dis pas que t'as tort, hein. Je dis que tu forces. C'est pas pareil. Bien sûr, comment ne pas citer Defecator sur ces sujets ? Oui, bien sûr, Defecator. Il y a O de What the Fake aussi, il y a Julien Pain, il y a un paquet de gens quand même qui font du contenu ou qui sont journalistes, qui travaillent sur ces sujets. Les sectes méga dangereux, mon beau-frère m'a fait plonger dans 40K. Ça me coûte très cher et je ne peux pas en sortir. Ah, 40K, c'est dur comme secte. Hein. Ouais. Non, c'est une secte, c'est douloureux. Et encore, on n'a pas parlé de la secte des abonnés à ma chaîne. Mais mec, tu les verrais. Hein. Ah non, mais ils sont... Puis ils renouvellent. Hein. Ah ouais, non, c'est auto-alimenté le truc. Hein. Terrible. Ça fait 30 ans que j'achète des livres d'invocation de démons dans Donjons et Dragons, ça s'arrête pas. Ah là là. Et c'est nous qui allons donner des leçons après. Ah là là, on est irrécupérable. On est irrécupérable. au grand Jean Le Massier. Quand tu dis ça, t'es pas abonné ? Mais enfin. Ils deviennent quoi, ceux depuis leur disaster class sur le Covid ? De qui ? Ah pardon, non, tu répondais à quelqu'un. Autant pour moi. Les copains, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir été là, c'était cool. On se retrouve demain à 14h. Non, à 13h. On se retrouve demain à 13h pour la séance des questions au gouvernement, la séance du mercredi. Et je vous rappelle que ce jeudi, nous recevons Bali Bagayoko comme invité politique dans l'émission Backseat. Je vous invite d'ailleurs à venir dans le public de l'émission Backseat si vous habitez à Paris. Si vous habitez à Paris ou pas loin de Paris, venez, ramenez vos potes, point d'exclamation place dans le chat. Voilà, venez à Backseat, venez profiter du buffet et boire des bières et on discute et ça va être cool. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne suite de soirée et je vous dis à demain. Salut les copains, à demain, ciao ciao.